plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cotes.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Édouard Baer.
Il fait son pain eux-mêmes, ils font leur pain eux-mêmes. Édouard Baer fait son pain lui-même, mais dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'il est rentré du Brésil hier matin, il est reparti immédiatement. Je sais pas, il est venu ici, il est reparti, donc je sais pas.
Non, mais
il
dit tous les animaux de la ferme sont là.
Sauf un.
Alors, il y a l'anima, il y a l'âne, il y a le coq ou pas?
Ben non, il est pas là, justement.
Le coq n'est pas là. Ah, d'accord. Donc, il y aura pas de cocorico, parce que nous, on est tous là.
François Rollin, Thomas Baumgartner, Atman Kelif, Marie Missette, Ito, Eugénie Pomayou, Thierry Paré, Charlène Nouilloux, on est tous là. Qu'est-ce qu'on fait de cette émission alors, parce que c'est bien gentil, mais
on va faire pareil mais en mieux. Non.
On en profite.
Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Rollin?
Ben, je pense que là, on respire, quoi. Voilà, c'est le sens, ce matin, on respire. Je sais pas quoi. Il y a comme une absence qui fait du bien. il va être triste.
Mais moi, je pensais le croiser. Il m'avait promis des Havaninas, des t-shirts, tout ça et tout. Rien, en fait. Il est reparti en Afrique du Sud.
Est-ce que vous avez une envie particulière, une émission, je ne sais pas, consacrée à l'automobile aujourd'hui ou
à l'agriculture surtout, il y a le salon.
Il y a le salon.
Il y aura des Oscars, de l'agriculture, des infos.
Du rock'n'roll.
Du rock'n'roll.
Non, le truc qui est très important, c'est que Thierry Paré va pouvoir faire son journal tranquillement.
Ça, c'est
sans
ça,
avoir
c'est
un gars qui fait un petit commentaire toutes les 5 minutes, qui met son grain de sel.
Et donc, on m'a dit qu'on pouvait quand même,
François,
si ça nous tient,
non, mais
ça nous
démange. À notre façon, c'est bien. Mais c'est pas comme Édouard. Pour moi, le journal, c'est sacré. C'est-à-dire qu'un journal qui est en retard, par exemple, c'est plus un journal. Donc, moi, quand Thierry Paré a le micro, il faut qu'il ait le micro.
Moi, j'ai l'impression que le journal.
Il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de baratiner, de parler, de dire n'importe
quoi. Il
faut
pas que le tapis soit parti et qu'on parle dessus sur lui.
Voilà, c'est ça.
Le journal, il a l'air d'être un bon camembert avec un bon verre de rouge. Un truc très sacré.
Ouais, là, ce matin, on va vraiment avoir un journal intact, un journal beau, pur, comme ça, un journal vierge, comme on appelle, c'est-à-dire dépourvu de tous ces petits. Voilà, pas pollué, Thierry, c'est tout à fait le mot. Pas pollué.
Très bon lancement
de Thierry Paré.
Donald Trump propose une hausse historique des dépenses du Pentagone. C'est lui qui le dit, hausse historique des dépenses du Pentagone pour répondre aux menaces du monde, d'un monde dangereux. Je le cite toujours, bien sûr, à une augmentation de, venons-en au fait, 54 milliards de dollars qui seraient en particulier compensés par une réduction de l'aide internationale. À la veille de son premier discours devant le Congrès, le président américain a donc affiché, lors d'une rencontre avec des gouverneurs, sa volonté de présenter un budget 2018 qui respecterait, je le cite toujours, sa promesse de protéger les Américains.
François Fillon. Voilà, si Édouard était là, il aurait sûrement un petit commentaire sans intérêt qui interromprait le journal de Thierry.
Et ce serait
pour l'auditeur, ce serait très désagréable.
Complètement inaudible.
On ne peut pas mélanger les gens.
Mais là, on est tranquille au moins.
Merci, François.
Voilà, ça ne peut pas arriver là maintenant.
François Fillon et Marine Le Pen, les deux candidats sur lesquels planent des soupçons d'emploi fictif, peuvent-ils bénéficier d'une trêve judiciaire pendant la campagne électorale? Bon, on pose beaucoup la question ces derniers temps. Enfin, surtout la candidate du FN, qui estime notamment que la justice ne doit pas, je cite, contrecarrer la volonté du peuple. Elle a en outre mis en garde les fonctionnaires qui répondraient à un personnel politique aux abois. À force, Laurence Blisson en a pris l'habitude. Les critiques sur la justice, elles sont quasi permanentes. Mais le coût des menaces, franchement, c'est autre chose. La secrétaire générale du syndicat de la magistrature n'a pas de mots pour qualifier la dernière charge de Marine Le Pen contre les juges. C'est trop, s'agace-t-elle. Bernard Cazeneuve, lui, a répondu à François Fillon au sujet du climat de quasi-guerre civile en France. Accusation irresponsable, selon le Premier ministre. Alors que le candidat de la droite pointait ce week-end à une passivité supposée des pouvoirs publics après une série d'incidents visant les meetings et les déplacements de certains candidats, Marine Le Pen et des siens aussi. De fait, François Fillon est régulièrement accueilli à chacun de ses déplacements par des concerts de casseroles, en écho aux casseroles judiciaires qui lui collent à la peau, bien sûr. C'est une tradition, en fait, faut le savoir, initiée il y a près de deux siècles, sous la monarchie de Juillet en 1832. La nouvelle ligne SNCF Tour Bordeaux sera mise en service officiellement au mois de juillet, mais sera inaugurée dès aujourd'hui par François Hollande. D'ailleurs, il sera sur place. C'est une ligne à grande vitesse, coût du chantier près de 8 milliards d'euros, une ligne qui fonctionnera en partie grâce au privé, donc un peu comme des autoroutes, avec des actionnaires et un peu comme des autoroutes. Et évidemment, vous voyez où je veux en venir. Beaucoup s'inquiètent d'ores et déjà du prix des billets qui n'a pas encore été dévoilé. De richissimes touristes vont réaliser un vol autour de la Lune à la fin de l'année prochaine. Alors quand on dit de richissimes touristes, ils sont deux en l'occurrence, deux à avoir signé un contrat avec la société américaine SpaceX, fondée et dirigée par le milliardaire Elon Musk. Aucune mission habitée n'est retournée dans l'orbite lunaire depuis la mission Apollo 17 de la NASA. C'était en décembre 1972.
Il y aura peut-être Jim dans ce voyage, l'ami de Donald Trump. Parce que Donald Trump, il envoie maintenant son ami Jim pour dire si c'est bien ou pas bien.
Ah bah c'est possible.
Il va revenir en disant « Ah non, it's not good, le moon ».
J'ai pas compris.
C'est pas bien la lune.
Non mais faut pas le dire non plus. On n'est pas obligé de dire si on comprend pas.
J'ai pas compris ce que vous venez de dire.
Mais si, Jim, c'est le nouvel ami que Trump envoie dans le monde pour dire si c'est bien ou pas bien les pays.
La suite du flash, Thierry Paret.
Ah, j'interviendrai quand je voudrai.
J'espère. Le mystère reste entier à Nantes autour de la disparition de la famille Troadec, pardon. Le couple d'Orvault en Loire-Atlantique et ses deux enfants n'a plus donné signe de vie depuis 12 jours. De nombreuses taches de sang à l'étage, dans l'escalier, au rez-de-chaussée, dont certaines avaient été essuyées, ont été retrouvées au domicile de la famille. De la vaisselle était toujours dans l'évier de la cuisine. Le frigidaire était rempli. Trois empreintes génétiques ont été identifiées par les enquêteurs. Seul l'ADN de la jeune fille de la famille manque à l'appel. Une information judiciaire a été ouverte hier soir par le parquet de Nantes et la police s'intéresse toujours de près à l'un des fils du couple qui avait coupé les ponts avec sa famille. Des chercheurs de l'université Queen Mary de Londres sont parvenus à apprendre à des bourdons à placer une bille dans un trou. Ça peut paraître anecdotique. En fait, leur étude met en évidence une capacité d'apprentissage jusqu'ici inconnue, à savoir la maîtrise d'une tâche entièrement nouvelle pour eux, étrangère aux pratiques qu'ils sont susceptibles d'adopter dans leur vie habituelle. Et puis les huitièmes de finale de la Coupe de France de football, début ce soir avec avec trois rencontres, Bastia Angers, Fréjus Saint-Raphaël Auxerre, ça c'est à 18h, et puis Bordeaux-Lorient à partir de 21h.
Très très bien.
François Rollin, pardon pour le micro. François Rollin, peut-être une réaction à cette bille dans un trou.
Armel, je voudrais en fait profiter du fait qu'on n'est pas à l'antenne pour dire que j'ai eu une bonne idée ce matin d'une farce à faire aux auditeurs. C'est que tout le long de la matinale, on dirait n'importe quoi comme heure. Au lieu d'annoncer l'heure qui est vraie, on dirait par exemple, toc, allez, boum, il est 17h15.
C'est très malin.
Alors ça va créer un désordre incroyable et tout ça. Les mecs, ils vont partir, ils vont quitter le boulot alors qu'ils n'y sont pas encore arrivés. Tout ça. Et alors nous, toute liberté, qu'on dit n'importe quoi. Je dis, alors dès qu'on est à l'antenne, je dis, ah ouais, 20h22. Alors je dis, oh bah merde, la journée a passé vite. Et tout
ça. La confusion.
Et vous rigolez pas quand on est à l'antenne aussi.
Qu'on dise les mêmes heures aussi.
Il est quelle heure, François?
Alors là, mettons. Attends, si encore prend l'antenne, vas-y, on va dire un truc de fou, on va dire minuit et demi.
J'ai hâte. On stoppe. Sur Nova, on écoutait FKJ à l'instant avec Lying Together. François Rollin vous donne l'heure.
Oui, il est 14h en ce jeudi 3 juin.
Ah, dis donc. C'est l'heure du club de la presse, des connaisseurs, des connoisseurs. Ouais.
Alors mon vieux, vous avez la parole, vous la gardez.
Ah bah merci. Alors moi, je dirais que si vous êtes androgyne, avec la voix grave, vous avez l'œil Véron, que vous dansez comme une saucisse et que vous chantez sous la douche Let's Dance, vous êtes peut-être le fils de David Bowie. Je dis ça parce qu'il y a des avocats qui recherchent les enfants inconnus de David Bowie. Alors il faut se déclarer jusqu'au 20 mai. Il y a 80 millions de dollars à la clé.
Bon, bah, je vais tenter.
C'est bien organisé en tout cas.
Très très bien organisé. C'est dans le Sun qu'ils l'ont publié. Alors si vous êtes un enfant méconnu, c'est comme une loterie. Il y a des chances que vous êtes peut-être. Alors il faut se déclarer. Il faut dire voilà, ma mère a connu peut-être David, tout ça et tout. Je pense qu'il y a une ADN à faire, mais peut-être que dans vos gènes ou dans le truc, il y a
par
peut-être
une ressemblance. Moi, je peux le faire, par exemple ça.
Pourquoi pas?
Je peux postuler.
Mon avis, vous êtes peut-être le fils de David Bowie. Allez-y, pour voir.
D'accord, il n'y a pas un petit peu d'invraisemblance? Ils vont pas pinailler sur les dates et tout ça.
Je pense pas. Non, peut-être sur l'heure. Peut-être
ça
sur
se
l'heure.
Tente, alors.
Si vous dites 14h15 au lieu de 2, non.
Vous avez vu ça, vous?
Dans le Sun.
Ok, voilà. Bonne lecture. Qui a une information? Thomas?
Oui, non, moi, il y a deux, trois choses sur ce qu'on ne peut pas faire. Ce qu'on ne peut pas faire, il y a une interview d'Axel Le Maire qui n'est plus désormais secrétaire d'État au numérique, puisqu'elle a démissionné hier, et elle raconte un peu son expérience de ministre. Ce qu'il est arrivé en avril 2014 dans le gouvernement Valls, elle disait, on lui pose la question, est-ce que c'est difficile d'être au gouvernement? Elle dit oui, tous les jours, on ne peut pas arriver avec des idées, ce sont les administrations qui demandent à mettre en œuvre des programmes conçus il y a plusieurs années. Elle ajoute qu'une de ses déceptions, c'est que ses marges de manœuvre ne lui permettaient pas de proposer des projets qui entraient dans les cases. Malgré tout, il y a des projets, évidemment, qu'elle a réussi à mettre, une loi notamment qu'elle a réussi à mettre en œuvre, mais en fait, on se rend compte qu'être ministre, c'est pas si simple que ça. Et dans la série Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, il y a un peu plus loin, un article sur les 60 ans de Gaston Lagaffe. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Gaston Lagaffe, il a 60 ans. Et il y a des paroles reprises par Mathieu Lindon, des paroles d'André Franquin, qui a dessiné et créé Gaston Lagaffe. Il y avait une limite pour Franquin, c'est qu'il n'a jamais osé dessiner l'intérieur de Gaston Lagaffe, son appartement. Tout devrait être une complexité abominable.
Non, pas son système digestif.
Il a peut-être dessiné. Non, mais son appartement. Et donc, c'était trop complexe à dessiner, donc il ne l'a jamais fait. Il dit, j'ai dessiné son lit une fois, qui était plein de tuyaux, avec un robinet s'il voulait boire. Voilà. Donc il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas
faire.
Moi,
j'ai le pull de Gaston Lagaffe là aujourd'hui.
C'est vrai. Et c'est pas vrai, on voit son lit. À un moment, il fait de sa voiture, il fait de son lit une voiture,
oui,
Gaston.
Oui, c'est ce qu'il dit, il a dessiné son lit.
Ah, c'est ça pour moi. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça.
Mais pas l'appartement.
Et qui roule, et c'est un peu la plus belle voiture du monde.
Marie Misset, une information.
Oui, une information, c'est Donald Trump qui essaye de supprimer, enfin, qui ne veut plus vraiment supprimer l'Obamacare, puisqu'il se rend compte que finalement, les gens ne sont pas tellement contre avoir une assurance maladie qui fonctionne même pour les plus pauvres. Et surtout, hier, il a dit à CNN, nobody knew that healthcare was so complicated.
Il
a découvert qu'en fait, c'était un poil plus complexe que ce qu'il pensait, et il l'a dit.
Eh bien,
magnifique, magnifique anglais, magnifique anglais.
Dans la série, on peut faire, mais on n'a pas le droit. Quand tu vas, j'en parlerai plus longtemps tout à l'heure, au salon de l'agriculture, il y a des panneaux partout, c'est marqué interdit de caresser les animaux, respectez-les s'il vous plaît.
Jacques Chirac le faisait tout le temps.
Ouais, et mais par contre, tous les hommes politiques, on les voyait caresser les vaches. Donc ils n'ont pas le droit, mais ils prennent le passe-droit.
Puisqu'on parle des animaux.
Ils sont toujours en train de caresser les animaux.
Pardon Tito, excuse-moi. Puisqu'on parle des animaux, à 15h35, je pense qu'on peut donner cette info, parce que ce n'est pas gênant. C'est la mort de Gustavito. Gustavito, c'était un hippopotame du zoo de où d'ailleurs, je ne sais plus. Bah, au Mexique, en fait, c'est très précisément, ça se passe au Mexique. Il est considéré comme un icône du parc national zoologique du Salvador, autant pour moi, au Salvador. Il est mort et il a été tué à coups de poinçon. Et c'est pas du tout anecdotique. Sur place, ça fait la une absolument partout. Les gens sont outrés.
Attends, il a été assassiné alors.
Il a été assassiné à coups de poinçon. Et voilà, les vétérinaires se sont acharnés pour essayer de le sauver.
Mais un hippopotame,
c'est pas très drôle, c'est pas très fun.
Un lien peut-être avec le drame d'Orvault.
À 16h45, vous prenez des risques, François Rollin. Je pense qu'on a fait le tour, tout le monde a dit.
Charlène. Petit mot quand même.
Oui, il y a deux journées mondiales aujourd'hui. C'est la journée mondiale des maladies orphelines et c'est la journée mondiale sans Facebook. Alors c'est un petit peu.
Laquelle on choisit?
Bah, en fait, ce qui est un peu couillon, c'est que le bon moyen de parler des maladies orphelines, c'est quand même d'en parler sur Facebook, mais du coup, il n'y a pas droit.
Voilà, ça se mord la queue. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, non?
Sur Nova Gorillaz et De La Soul à l'instant avec Feel Good Inc. Il est quelle heure, François Rollin, en fait? Je me permets de vous demander.
Il est pile 20h en ce dimanche 14 novembre.
Alors, Edouard Bernet.
7h18 pour nous.
Edouard Bernet n'est pas là ce matin car il est parti pour, un tour du monde. Il reviendra dans 80 jours, comme on peut s'y attendre. Thomas Baumgartner, je n'arrive pas à prononcer
c'est
votre nom proprement ce matin. J'ai envie d'acheter un petit appartement à New York, un petit 12 pièces. Comment je m'y prends?
Ah, c'est une bonne question.
Bah oui.
Je ne sais pas, on va peut-être poser la question. Mais pas tout de suite. À Guillaume Villemot qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Vous êtes le grand coordonnateur du réseau Bleu Blanc Zèbre, les Feuzeux, ceux qui sont dans la concrétude de l'action sur le terrain. Voilà, c'est ça, une forme d'action civique partagée. Vous venez nous en parler régulièrement, des associations, des individus. Et d'ailleurs, vous revenez de Montbéliard.
Exactement.
Et vous avez trouvé des zèbres à Montbéliard.
Ah ouais, des jolis zèbres à Montbéliard hier soir. Ouais, c'était un peu tard, mais non, ça valait la peine. Qui faisait aussi bien des gens qui avaient créé une entreprise qui fait de l'insertion au travers de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire, et qui embauche aujourd'hui plus de 7000 personnes à l'année, au total de contrats cumulés. Il y avait un garage solidaire, qui est quelque chose aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'une des problématiques de l'emploi et du retour à l'emploi, c'est l'absence de mobilité. Et donc les expériences aujourd'hui de garage solidaire qui se déploient un peu partout sur le territoire sont hyper importantes parce que ça permet à des gens de pouvoir avoir réaccès à un moyen de locomotion pour aller passer un entretien, faire un CDD ou réussir à signer un contrat de travail.
Le réseau en France des zèbres, ça représente combien d'actions, combien de possibilités?
300 actions réparties sur tout le territoire et avec aujourd'hui à peu près 90 territoires avec lesquels on a signé des accords. Signer des accords, ça veut dire qu'on implante en fonction des besoins du territoire nos propres actions qui viennent en complémentarité de ce que les élus locaux ou régionaux ont pu eux-mêmes déjà mettre en place.
C'est un réseau hein, ouais. ce que vous créez, comment on peut postuler ou en tout cas se faire connaître auprès de vous?
Alors en allant sur le site bleublanzeb.fr, il y a un petit formulaire qui arrive sur ma boîte mail qui permet de présenter une action ou dénoncer quelque chose de positif, ce qu'on ne fait pas assez souvent. Dénonçons les gens bien, c'est-à-dire de savoir qu'à côté de chez soi il y a quelqu'un qui organise telle ou telle action qui rend concrètement un service à la société.
Alors, ce matin, Guillaume Villemot, vous venez nous parler en particulier de quelque chose qui s'appelle le Conseil du coin. Il se trouve qu'il y a un constat qui est que ce n'est pas toujours facile d'avoir accès aux droits en général. Quand, comme Armel, on compte acheter un loft à New York, on a besoin parfois de conseils. On veut acheter d'autres choses aussi, on peut élargir un peu le concept, et notamment avoir accès à des notaires. Alors, le Conseil du coin, c'est ça ?
Le Conseil du coin, c'est ça. Ce que j'aime bien dans le Conseil du coin, qui a été monté par des notaires en colère au départ, c'est qu'ils ont transformé une colère qui était celle de la profession parce qu'il y avait un projet de loi qui depuis est devenu une réalité sur la transformation de ce métier-là. Il y a eu une colère qu'ils ont transformée en quelque chose de positif. Et il y a un certain nombre de notaires qui, derrière un type que je trouve assez extraordinaire, qui est notaire à côté de en Loire-Atlantique, à Nantes, qui s'appelle Vincent Chauveau, et bien ces gens-là se sont regroupés en disant « Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer quelle est notre profession. » Profession de notaire, c'est pas forcément celle qui fait le plus pitié quand on entend qu'il y a des professions qui sont attaquées, etc. Mais l'autre jour, moi, je dînais dans le cadre des déplacements des ZEB, comme ça, à côté d'une jeune femme notaire à Aix-les-Bains, et qui me racontait le quotidien d'un notaire aujourd'hui. Or, c'est des professions, aujourd'hui, il y a des gens qui déposent le bilan, où ils n'arrivent pas à se payer, les charges ont été tellement chères à payer, enfin bref. Et donc, ces notaires en colère ont décidé de se rendre accessibles et compréhensibles auprès du public. Donc, ils ont créé, tous les premiers samedis de chaque mois, ils organisent des rencontres dans les cafés où ils vont faire du conseil gratuit auprès des Français.
Donc, ce n'est pas simplement expliquer ce que c'est que le métier. On peut arriver
réellement
avec une vraie
conseil.
Question.
En trois ans, ils ont rendu plus de 25 000 conseils qu'ils ont offerts aux gens qui venaient les voir. Et alors, les conseils, c'est aussi bien, je peux acheter un appartement à New York, alors à mon avis, plutôt à Pontarlier.
Mais, c'est bien aussi.
Parce qu'ils auront... Oui, c'est bien aussi.
C'est mon deuxième choix.
Ouais. Et ensuite, c'est d'expliquer aux gens comment faire pour régler un problème de succession, mais comment faire pour simplement saisir une administration parce que je suis coincé à un moment donné, etc. La semaine dernière, il y a eu le rapport qui a été remis par Toubon qui gère qui est le défenseur des droits et qui montre à quel point aujourd'hui, justement, l'accès aux droits recule. Alors peut-être pas forcément dans des grandes villes comme Paris, mais recule partout en France. Et donc ces situations-là bloquent des problèmes d'expulsion, des problèmes de logement, des problèmes de succession, des problèmes de divorce, etc. etc.
Ça signifie quoi, Guillaume Villemot, que l'accès aux droits recule ? Ça veut dire que c'est trop complexe, on en a peur ? Ça veut dire que culturellement, il y a un blocage ? Ça signifie quoi ?
Ça veut dire qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus réglementé et dans lequel on met de plus en plus de barrières pour pouvoir avoir accès à quelque chose. Quand on regarde aujourd'hui, ne serait-ce qu'un contrat de travail, quand on regarde un bail pour une location, on se rend compte à quel point, comme tout le monde, met de ceinture et bretelles pour se protéger de tout et surtout de son ombre. On se rend bien compte que ça complexifie énormément les choses.
C'est la compréhension du droit aussi.
C'est la compréhension du droit et son coût, parce que son coût peut être élevé dans certains cas. Alors, il y a le Conseil du coin dont on parle là, mais il y a aussi, par exemple, l'Ordre des avocats à Paris, le barreau de Paris, a mis en place tous les jours un bus. Alors, comme le barreau de Paris intervient dans Paris intramuros, donc il est à l'intérieur du périphérique, et chaque jour, des avocats viennent gratuitement donner des conseils aussi à des gens qui ont une vraie difficulté. Moi, j'ai rencontré ça à un moment donné sur le terrain, où on se rend compte à quel point les gens sont démunis et ont peur. C'est surtout ça. Et là, le travail du Conseil du coin fait qu'ils ne débanalisent pas, mais ils expliquent les choses. Ils rendent les choses humaines et en tout cas un peu plus accessibles et compréhensibles.
Le Conseil du coin, c'est sur tout le territoire ?
C'est sur l'ensemble du territoire. Alors, samedi prochain...
Oui, il y a des adresses, en fait.
Alors, voilà, c'est
comme
ça.
Comme des écrivains publics qu'on va voir.
Exactement. Alors, on les retrouve...
Mais est-ce que ça a une valeur juridique, une fois qu'on
non, c'est une valeur de conseil. C'est vraiment une valeur de conseil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont vous expliquer quoi faire, quelle démarche entreprendre. Oui. Et puis, dans certains cas, ils vont aller au-delà de ça. Mais quand ils ont commencé, c'était en plein moment des premiers mariages de la loi Taubira.
Ah ouais,
et y avait énormément de couples qui venaient en disant « Mais voilà comment je fais pour m'organiser, comment je gère mes successions. On a des enfants, on a eu chacun des enfants avant de décider de vivre ensemble. Comment on apporte ça ?» Et ils ont vraiment, j'ai assisté à des moments où il y avait vraiment un échange très fort qui existait.
Et samedi prochain, le dernier mot, ça se passe dans un TGV, dans les TGV ?
Alors en plus, samedi prochain, il y a un TGV pour le moment, parce que c'est un test, qui est le TGV numéro 2513, qui va de Paris à Nancy et qui partira à 15h13 et où il y aura également des conseils du coin. Et sinon, c'est retrouvable. On trouve toutes leurs adresses sur le site conseilsducoin.fr.
Merci beaucoup, Guillaume.
Merci Bilmo. À vous.
On se retrouve bientôt pour d'autres zèbres, d'autres initiatives.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
François Rollin, vous n'êtes pas notaire ?
Non, ni même clair.
Vous n'êtes pas en colère non plus ?
Non plus, non.
Est-ce que vous avez quand même un conseil à donner ce matin ?
Oui, bien sûr. De toute façon, il y a peu de matins où je n'ai pas un conseil à donner. c'est si vous avez... attendez, mais attendez, je ne suis pas obligé de parler à toute vitesse.
Non, vous n'êtes pas obligé.
Attendez, c'est quand
moi,
même...
j'ai rien dit, j'ai
prenez votre temps, cherchez un conseil.
Bon, et voilà, c'est tout simple, je vous le dis. C'est que si vous avez envie de boire un petit café, eh ben, la bonne idée, c'est d'en boire un. Et voilà, que
c'est
gentil.
C'est le conseil du pouvoir.
Plus près de toi.
Nova.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h.
Il m'en reste un peu, je vous le mets quand même.
Sur Nova, les Beastie Boys avec Girls à l'instant. Atmen Khelif, vous vouliez absolument parler de cette petite cérémonie qui a eu lieu ce week-end.
Toute petite cérémonie dont tout le monde se fout, qui s'appelle les Oscars, où il y a eu quand même la bourde du siècle. Alors moi j'y reviens parce que j'ai l'explication, je l'ai regardé et tout. En plus Canal+ avait fait un reportage assez grand sur les huissiers, qui avaient en fait deux valises chacun de 24 enveloppes. Ils partaient tous les deux avec deux heures d'avance, enfin deux heures d'écart, pour pas que les gens les braquent. Donc chacun avait deux enveloppes identiques. C'est-à-dire qu'il y avait deux enveloppes Emma Stone pour La La Land, voilà. Et donc l'agourant, c'est qu'on a donné deux fois la même enveloppe. Alors quand Warren Beatty l'a ouverte et qu'il n'avait pas lu, enfin Finding Nowhere n'avait pas lu une lettre, elle a dit La La Land qui était écrit en gros. Alors qu'ils auraient dû appeler un huissier et dire, écoutez, on vous a donné la deuxième même enveloppe. Et ce qui s'est passé que moi j'ai pas aimé, c'est que je pense que cette grosse bourde a un peu occulté le fait que Moonlight aurait pu avoir un vrai triomphe avec un vrai discours partisan quand même. C'était la première fois qu'on voyait quand même un No White, on va dire, aux Oscars, qui avait quand même l'année dernière
un nom blanc.
Un nom blanc. L'année dernière, on disait les Oscars So White. Là cette année, il pouvait avoir une vraie parole, un vrai discours. Voilà, pour premier, on va dire, acteur musulman à recevoir un Oscar. L'acteur c'est Shire Ala Ali. Le film aussi, tout ce que ça racontait. On n'a pas pu, on les a juste un petit peu évacués. Oui, vous avez gagné, la 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 la, et les a mis de côté.
Oui, vous avez gagné.
Oui, vous avez gagné, c'est bien, la 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 lande, et voilà, on les a bousculés un petit peu. Ils ont fait un petit discours un petit peu rapide, et j'ai trouvé ça un petit peu pas préparé, mais peut-être qu'il y a peut-être une petite théorie du complot, voilà, que je voulais dire.
Il y a eu une erreur, on engueule qui ?
Je pense qu'on engueule à la fois les huissiers et on engueule Faye Dunaway, qu'on connaît un peu, qui a un sale caractère, que moi j'avais croisé au festival de Marrakech et qui avait été insupportable. Voilà.
Mais comme souvent dans les, comme souvent dans les reportages d'Atmen, je comprenais mieux avant ce qui s'est passé.
Merci François Rollin, à 14h05. Merci, belle intervention.
Les infos, Thierry Paré.
L'héritier de l'empire Samsung, il s'appelle Lee Jae-yong, vient d'être officiellement inculpé pour corruption, détournement de fonds, dissimulation d'actifs à l'étranger. Et parjure également, le patron et héritier du conglomérat sud-coréen a été arrêté pour son implication dans cette vaste affaire de trafic d'influence qui a entraîné la suspension de la présidente Park Jung-hi. Donald Trump, lui, propose une hausse historique des dépenses du Pentagone pour répondre aux menaces d'un monde dangereux, dit-il. Une augmentation de 54 milliards de dollars qui serait en particulier compensée par une réduction de l'aide internationale à la veille de son premier discours. Devant le Congrès, le président des États-Unis affiche lors d'une rencontre avec des gouverneurs donc sa volonté de présenter un budget 2018 qui respecterait sa promesse de protéger les Américains. Je le cite toujours. François Fillon et Marine Le Pen, les deux candidats sur lesquels planent des soupçons d'emploi fictif, peuvent-ils bénéficier d'une trêve judiciaire pendant la campagne électorale ? En tout cas, la candidate du FN le souhaiterait. Elle estime notamment que la justice ne doit pas, je cite, contrecarrer la volonté du peuple. Elle a en outre mis en garde les fonctionnaires qui répondraient à un appel à un personnel politique aux abois. Bernard Cazeneuve a répondu, lui, à François Fillon au sujet du climat de quasi-guerre civile en France, une accusation irresponsable selon le Premier ministre. La nouvelle ligne SNCF Tour Bordeaux sera mise en service officiellement au mois de juillet. Elle va être inaugurée dès aujourd'hui. François Hollande sera sur place. C'est une ligne à grande vitesse. Coût du chantier près de 8 milliards d'euros. Une ligne qui va fonctionner en partie grâce au privé, donc avec des actionnaires, un peu comme sur le mode des autoroutes. Beaucoup s'inquiètent donc d'ores et déjà du prix des billets, qui n'a pas encore été dévoilé. Le mystère reste entier à Nantes autour de la disparition de la famille Troadec. Le couple d'Orvault et ses deux enfants n'a plus donné signe de vie depuis 12 jours. Une information judiciaire a été ouverte hier soir par le parquet de Nantes. La police s'intéresse toujours de très près à l'un des fils du couple qui avait coupé les ponts avec sa famille. De richissimes touristes, deux en l'occurrence, vont réaliser un vol autour de la Lune d'ici 2018, à la fin 2018 en fait. C'est une annonce de la société américaine SpaceX, fondée et dirigée par le milliardaire Elon Musk. Aucune mission habitée n'est retournée dans l'orbite lunaire depuis la mission Apollo 17 de la NASA. C'était en décembre 1972.
Ils savent que les fusées explosent parfois au décollage ou pas ?
Ça, les deux touristes, tu veux dire ?
Oui.
Je sais pas.
On va leur dire.
On peut peut-être leur envoyer un tweet.
Mais maintenant, ça n'existe plus.
Ah, si.
Ah bon ?
Ah,
bon,
si, plus si, maintenant. Les trucs de
SpaceX. Côté NASA, nous avions cet astronaute, c'est fini ça.
Bon, on va chercher les faits et on donnera des faits précis dans un instant.
Un flash info sans info animalière ne serait pas un flash info, vous me l'accorderez. Grosse effervescence en ce moment au zoo Ueno de Tokyo. Ces deux pandas géants, Shin Shin et Riri, se sont enfin accouplés. C'est très rare, hein. Pour la première fois en 4 ans, les deux animaux ont été éloignés des regards afin de leur assurer des moments d'intimité parce que c'est la période qui est propice là en ce moment. C'est de quelques semaines par an, c'est pas beaucoup. Et donc hier, eh bien, ces deux timides animaux ont commencé à se faire la cour pour finalement s'accoupler. Attention, très précisément 52 secondes. Début des huitièmes de finale de la Coupe de France de football ce soir. Bastia Angers et Fréjus Saint-Raphaël contre Auxerre, c'est à partir de 18h. Bordeaux-Lorient, ce sera à partir de 21h. Les autres rencontres demain.
C'est bien le Lama 56 alors.
Laissons vivre ce silence, comme on fait parfois.
Merci de m'avoir laissé avec ce Lama. Le Lama.
Ouais. Bah, c'est ça. Bah, c'est, oui, bien sûr.
Qu'est-ce qu'il a, le Lama?
Bah non, bah 56.
Deux lamas se sont accouplés aux zoos de Tokyo.
Des pandas.
Ah, des pandas.
Ah, des pandas.
Mais c'était 52 secondes. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas compris.
D'accord, j'ai pas. Non, c'est des pandas.
Et je pense même que deux pandas géants.
Je pense même que vous les flattez parce que leur période propice, comme vous dites, elle est encore plus restreinte que quelques semaines.
Ouais.
C'est peut-être même quelques jours.
Voilà.
Ah, et c'est pour ça que c'est aussi cet animal est en train de
s'éteindre. Mais là, je m'incline
parce qu'il n'a pas beaucoup de désir sexuel.
Est-ce qu'on aura une chronique animalière, François Rollin, d'ici la fin de l'émission?
Oui, on aura.
L'animal du mardi. On ne sait pas
l'animal
quel
animal du mardi sera au rendez-vous.
Tito.
Aujourd'hui, il pleut partout. Voilà. Il y a du vent au bord de la mer, 80 km/h. Alors, à Boulogne, les températures sont Boulogne-sur-Mer, mais il est 22h15. À Limoges, il est 9h. Mais en vérité, à Agen, il fera de 2 à 9. À Angers, de 6 à 11. À Marseille, de 6 à 14. Attention, on accélère. À Paris, de 6 à 8. À Poitiers, de 6 à 9. À Tours, de 6 à 9. À Vienne, entre 3 et 12. À Dakar, entre 28 et 29. À Boulogne-sur-Mer, entre 5 et 7. La 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 la.
Vous aurez reconnu la chanson de Barbara, tout nu et tout bronzé.
C'est pour Depardieu.
Jack Sebor, dans la rue.
Ah ouais, d'accord. Oui, j'étais en train de m'interroger, je suis place de la République. Bonjour monsieur. Si on veut, on peut. Ça vous dit quoi?
Ben oui, c'est le mot qui est... Oui.
Vous pensez que tout est une question de volonté?
Un peu, oui.
Par exemple, si je veux faire un super arrière, là, un supérieur arrière, je
ah,
peux?
Ah oui, c'est compliqué, là.
Non.
Oui.
Tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas forcément.
Ben non, mais bon, il y a beaucoup de volonté qui manque quand même.
Qu'est-ce que c'est que cette expression? Bonjour monsieur.
Bonjour.
Si on veut, on peut.
Ah oh, putain, je vais bosser.
Ah, je vais bosser, putain, je vais bosser. Voilà, c'est une question comme fondamentale. Monsieur, bonjour. Si on veut, on peut.
Vous avez tout à fait raison.
Mais non, c'est faux, c'est complètement faux cette question. Monsieur, bonjour. Si on veut, on peut, cette expression, vous la connaissez?
Non.
Ah, bah ça c'est bien ça. Parce que tout n'est pas une question de volonté.
Non.
Ça c'était clair, net et précis. Voilà, je continue un petit peu. Bon, voilà.
Qu'est-ce que
bonjour.
Vous n'avez pas réussi à faire,
bonjour.
Jack, ce matin?
Excusez-moi.
La volonté et le pouvoir. Non. Non, c'est voilà, je me demandais si je veux parler japonais. Monsieur, madame, est-ce que je peux vous embrasser? Vous voyez, je peux pas tout faire. Voilà, c'est ça.
Jack,
c'est
ça. Jack,
oui, c'est moi.
Vous savez
que répondez à cette question.
Ouais. Vous avez une grande marge de manœuvre parce que vous êtes le seul envoyé spécial d'Europe qui ne soit pas au Salon de l'Agriculture ce matin.
Oui, oui, on a voulu m'y envoyer.
Oui, j'imagine bien. Ils ont voulu.
Pourquoi vous n'êtes pas allé?
Les enfoirés, ils ont voulu.
Je ne voulais pas. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Ouais. Je suis en train de me poser la question sur si on veut, on peut. Vous savez, cette question dit il suffit d'avoir la volonté pour pouvoir.
Mais moi, j'ai pas de volonté pour ça, donc vous pouvez me laisser tranquille.
Il n'a pas de volonté pour répondre au micro. Ouais.
Vous êtes où, Jacques? Jacques, vous êtes où, là?
À République,
moi,
il a dit.
Je suis place de la République. Oui, j'étais place de la Nation hier. J'avais envie de voir les deux, les deux représentations de la République différentes. On m'a dit que hier, professeur Bergeron, il disait que la statue qui est place de la Nation est beaucoup plus sociale parce qu'elle est dévêtue, fragile sur sa sphère et tout ça que la statue Place de la République qui est plus austère, vous voyez. Et là, je suis devant elle et je trouve que c'est vrai, ça.
Si on veut se rouler Place de la République par terre, on peut, je pense. Essayez pour voir.
Oui, vous n'allez pas m'avoir. Qui est-ce qui parle, là?
C'est Armel, voilà, il essaie de vous piéger.
Je continue mes petites pérégrinations comme ça. Je tiens à répondre à cette question aujourd'hui.
Essayez en allemand, hein, Verville der Kahn.
Demandez, hein, demandez aux gens pourquoi ils ne sont pas au salon de l'agriculture.
Voilà, je suis sûr qu'il va trouver, lui. Bonjour, monsieur. Il faut vouloir pour pouvoir, vous y croyez? Si on veut, on peut, cette expression.
Ouais, bien, ouais, je pense, ouais.
Par exemple, si je veux vous inviter au restaurant, c'est possible?
Faut voir. Si c'est une bonne soirée et qu'il y a du bon vin, ça peut le faire.
Bon, ça tombe bien, il est 20h12. Excellente soirée à vous, Jack. On vous retrouve un peu plus tard. Voilà. Bon, à tout à l'heure.
7h, 9h, Edouard Baird.
Ça me rappelle rien.
Sur Nova, Syd Barrett à l'instant avec Thérapine. Dans l'actualité de ce mardi 28 février, Thomas, il n'y a pas du tout Pink Floyd. Hein. Les journaux ont vraiment fait l'impasse sur Syd Barrett et sur Pink Floyd.
C'est une impasse impardonnable et on va pas s'y engouffrer nous-mêmes puisque nous avons à notre table Jean-Michel Espitalier. Bonjour.
Bonjour.
Poète, écrivain, qui publie Syd Barrett, Le Rock et autres trucs, une réédition qui se passe aux éditions Le Mot et Le Reste. Et Syd Barrett, donc on l'entendait effectivement à l'instant, ce morceau de Thérapine. Armel, vous me disiez que Thérapine, c'est une tortue d'eau.
Oui, j'ai vérifié, c'est une tortue d'eau. Alors je ne sais pas de quoi il parle exactement dans la chanson.
C'est vrai que l'ambiance est assez aquatique dans ce morceau solo.
Avec Syd Barrett, on ne sait jamais trop de quoi il parle.
Bah, c'est un peu ce qui se passe au centre de ce livre, Syd Barrett, Le Rock et autres trucs. Oui, je disais, vous êtes poète. Aujourd'hui, les poètes parlent de rock, évidemment, parce que l'enfance... et puis vous êtes batteur aussi, ouais. Jean-Michel Espitalier. Ouais. Oui, parce que le rock nous accompagne, le rock est dans la vie, et la poésie contemporaine s'en empare. Et vous, dans ce livre-là, c'est aussi un livre à la première personne, puisque vous racontez comment vous êtes allé, en tout cas c'est le début, à la recherche de ce fantôme du rock qui était Syd Barrett, qui était membre fondateur des Pink Floyd, et qui a rapidement disparu des écrans. Et vous, bah, vous avez voulu aller à la recherche de cette icône de votre adolescence.
En fait, oui, j'ai voulu faire une sorte de promenade dans le hors-champ, en fait, de l'histoire du rock et de la légende du rock. Il se trouve que donc Syd Barrett disparaît. Enfin, il a une carrière très courte, hein, une carrière avec Pink Floyd. Donc, c'est lui qui fonde Pink Floyd en 65. Premier 45 tours il y a exactement 50 ans, c'était au mois de mars 67. Arnold Lane, morceau d'ailleurs immédiatement censuré par la radio. Donc, 60, donc premier 45 tours, mars 67, et Syd Barrett est éjecté officieusement du groupe en janvier 68, officiellement en avril. Donc sa carrière en fait discographique Pink Floyd, elle dure un an.
Et après, il y a quand même des
quelques après, voilà, il y a deux albums qui sont dont on a entendu un extrait, Thérapine. Deux albums qui sont une espèce de perle d'ardoise magique, de brouillon fabuleux. Enfin, je sais pas comment on peut qualifier ça, qui sont enregistrés en 69 et 70 un petit peu. Et ce sont des albums qui sont très très laborieux, parce que Syd est malade, il est bourré de
LSD, drogué,
d'héroïne, etc. Mmh. Et donc ce sont ces amis de Pink Floyd qui l'aident à faire l'album, et aussi des gens de Soft Machine, dont le célèbre Robert Royatt. Donc c'est en même temps aussi une sorte de point de fusion de l'histoire du rock. Enfin, on se trouve en studio avec Syd Barrett, Pink Floyd et Soft Machine. Enfin, c'est quand même une page assez extraordinaire. Mais tout ça un peu backstage, parce qu'à l'époque, bon, c'est très peu connu. Et puis après, ben, Syd Barrett, il redevient une sorte de musicien amateur. Il crée des groupes, mais on pourrait presque appeler ça du pré-noise. Enfin, c'est quasiment inaudible. Et en 74, il disparaît complètement. Et après, donc, il rentre. Moi, c'est ça qui me fascine, c'est qu'en fait, il rentre chez sa maman à Cambridge. Et il retourne pas, parce qu'il n'a jamais été comme ça. Ça devient une sorte de petit bourgeois vivant dans une banlieue triste de Cambridge. Donc, cette espèce de retour à la normale. En même temps, comme il y a eu ce passé glorieux, très rapide, etc., c'est une sorte de... C'est une monstruosité, quoi. C'est une normalité anormale.
Vous chose racontez de... l'histoire d'un effacement, alors peut-être du fait de certains médicaments et de certaines drogues, mais aussi un effacement dont on peut se dire qu'il y a une part de volonté là-dedans. C'est-à-dire que des années plus tard, il dit tout ça ne me concerne pas, ne me concerne plus.
C'est plus mon business. Et d'ailleurs, je fais un parallèle assez appuyé avec Rimbaud, parce que c'est un peu le même genre de parcours. Enfin, tous les deux sont une sorte d'ange, ils sont très très beaux. Rimbaud, il tourne le dos à la poésie de manière assez fracassante en 74. Donc il a 20 ans, 21 ans. Syd Barrett, il tourne le dos au rock après l'avoir allumé complètement à 24 ans. Et comme chez Rimbaud, il y a cette espèce de, évidemment, donc c'est très fantasmatique, hein, mais Il y a cette interrogation éternelle, pourquoi ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, etc.
Et vous, vous allez jusqu'au bout du fantasme de
l'unitaire. Oui, il ne faut jamais faire ça.
Vous allez presque jusqu'au bout, vous n'avez pas
totalement jusqu'au bout. Je l'ai vu sortir et j'ai failli...
Vous êtes allé à Cambridge
en 2004. Il se trouve que j'avais traduit une biographie de Syd Barrett par Tim Willis, et donc j'étais en relation avec Tim par mail pour des questions de traduction, etc. Et un jour, je suis invité, donc en tant que poète, je suis invité dans un collège à Cambridge pour faire une lecture. J'écris à Tim et je lui dis, écoute, je vais à Cambridge dans un mois, file-moi l'adresse de Syd Barrett. L'adresse de Syd Barrett était devenue une sorte de Graal. Personne n'avait, il y a même un morceau d'un groupe qui s'appelle I Know Where Syd Barrett Lives. Oui. Donc c'était vraiment devenu une sorte de Graal. Et donc il voulait pas, il a fallu que je négocie assez longtemps parce qu'il avait peur que je veuille faire une sorte de scoop et rajouter donc l'adresse de Syd Barrett dans l'édition française du bouquin. Voilà. il est évidemment pas question de ça. Donc il a fini par me filer l'adresse. Donc je suis parti la veille à Cambridge et je me suis rendu un matin, c'était le 30 novembre 2004, d'ailleurs le jour de la mort de Christophe Tarkos, grand poète contemporain. Je me suis rendu à Cambridge, devant chez lui, mais alors là je me sentais assez con parce que j'avais 46 balais, enfin, juste comme ça, je me dis, mais c'est pas sérieux, qu'est-ce que je fous là? En plus, c'est même.
Vous aviez 46 balais et 15 ans en même temps à ce moment-là.
Oui, bien sûr, mais ça, je les ai toujours été. Mais il y avait cette espèce d'ambiguïté de me dire, qu'est-ce que je fais là? Et en même temps, je viens pas voir Mick Jagger, je viens voir quelqu'un qui est cramé depuis 30 ans, quoi. Donc, je viens voir une sorte d'archive. D'archives.
Et une anti-célébrité, d'une certaine manière.
Et une anti-célébrité. Et moi, c'est ça qui me fascine, c'est comme chez Rimbaud, quoi. C'est le passage backstage, quoi, en coulisses. Hein.
Et est-ce qu'il est devenu une icône du jardinage après avoir été une icône du rock?
Non, en tout cas, c'est devenu une sorte d'icône du rien, parce qu'en fait, il a vraiment fasciné les gens parce qu'il n'était plus rien. Et il y a eu quelques photos de paparazzi, en fait, qui étaient d'ailleurs des photos d'amateurs, prises dans des situations assez lamentables, enfin, en train de sortir les poubelles, en Marcel un peu mal rasé. Alors que le type était très beau. Et moi, quand je l'ai vu, il était très beau. Donc, c'était à la fin de sa vie, puisqu'il est mort en 2006. Moi, je l'ai vu en novembre 2004. Il était redevenu très beau, mais à un moment, il était énorme, ventripotent.
Vous l'avez juste croisé, à travers les vitres d'une voiture, vous l'avez vu. Et puis,
ce qui a été assez curieux et assez ambigu. Et finalement, c'est là où finalement, j'ai été pris à mon propre piège. C'est que moi, j'étais parti là-bas pour le voir. Donc, j'ai fait les 100 pas devant chez lui. J'ai pas osé rentrer parce que j'ai pas osé faire face au fantôme, enfin, c'est-à-dire face à moi-même, en fait, hein, à mon fantôme, à mon adolescence. Et je l'ai vu sortir avec sa sœur, parce que c'est sa sœur qui s'occupait de lui, il était quand même malade. Ils ont pris la bagnole, il habite dans une impasse. Et je trouvais que c'était assez marrant, ce mot impasse, en fait, pris à son double sens. Ce que je venais là, faire là, c'était aussi. Enfin, je venais m'inscrire dans une impasse, voilà. Et donc, ils ont fait demi-tour, ils sont venus là où j'étais, puisqu'ils partaient. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je frappe à la vitre, etc. Donc, ils se sont arrêtés devant moi parce qu'il y avait un stop. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement mal à l'aise que je ne l'ai pas regardé. Et c'est lui qui m'a regardé, derrière le plexiglas. Donc, il y a une sorte de retournement. C'est-à-dire que, en fait, j'étais venu pour le voir et c'est lui qui m'a regardé. Et moi, j'étais là, j'étais gêné. En plus, j'avais une veste un peu Sergeant Pepper, enfin, une veste militaire un peu 60s. Donc, en fait, le plus 60s des deux, c'était moi.
Et donc, Jean-Michel Espitalier, au-delà de cette rencontre qui n'en était pas une, mais qui était aussi l'aboutissement d'un chemin, vous racontez dans ce livre, Syd Barrett, le rock et autres trucs, d'autres histoires, rapidement, d'autres gens qui se sont retirés volontairement de la célébrité, du circuit. Et on peut faire un parallèle avec un autre livre qui a été republié il y a peu de temps, la seule fois c'est chez Pocket, de la célébrité, qui est une forme d'accumulation, de somme de références et de citations et d'idées autour de la célébrité. Et finalement, on se rend compte que entre ces deux livres, justement, vous penchez plutôt du côté de cette anti-célébrité et que on comprend qu'il y a aussi 40 ans entre deux manières d'être célèbre.
Oui, et puis, mais surtout, je pense que là, le parcours de Barrett, comme le parcours de Rimbaud et d'autres, hein, Nietzsche, enfin, il y en a plusieurs comme ça, mais le parcours de Rimbaud, en fait, déjoue complètement les logiques de la célébrité. C'est l'anti-Jagger, ce que je dis dans le livre. Enfin, c'est
qui n'a pas eu la chance d'être grillé à 25 ans.
Oui, c'est ça. Ouais, ce que vous
dites. On a un exemple tout proche. Hein, c'est Edouard Baird.
Bien sûr.
Ouais, c'est formidable.
En pleine carrière, en pleine gloire, et qui est parti en Afrique du Sud vivre, je ne sais pas quoi.
Assez brutalement d'ailleurs.
Oui, c'est brutalement.
Mais c'est le syndrome du cinquième Beatles, en fait.
Ouais,
c'est toute une époque où, d'un coup, les gens, pour être dans la légende, ne veulent pas l'être et le deviennent. Mais c'est quoi? C'est une absence de talent, un truc un peu chromosomique de dire, mais non, je ne suis pas prêt à affronter toutes ces foules. C'est...
Mais je pense qu'en fait, c'est effectivement, ça, en fait, c'est pas une absence de talent, je pense que c'est une absence de force.
Quoi, de parce force, que en fait. Quand je dis talent, je me suis un peu...
Oui. On voit très bien ça dans le film sur Joy Division Control. Hein, ouais. Ian Curtis, 23 ans, qui se suicide. En fait, Ian Curtis, donc Joy Division, immense groupe post-punk, hein, ouais. et Bon, il est malade, un peu comme Barrett, il a une double vie qu'il n'arrive pas à gérer, etc. Et le jour où ses potes lui disent qu'ils ont décroché une tournée américaine, il ne peut pas tenir. Il ne peut pas, parce qu'il n'est pas, pas assez fort. Ah, puis il rentre chez lui, il se pend. Ouais. Parce qu'il y a, un terrain derrière. Mais
donc les, là, gens, c'est, les gens le sentent, ça. Le, comme le syndrome de ces gens de 25 ans, de tous ces synchro coeurs là qui ont disparu, comme Amy Winehouse.
Ouais, 27, ouais, 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 ouais. Ouais.
Ce club, le club des 27, de peur de le rejoindre, les gens préfèrent s'effacer. Et puis,
oui, oui, c'est ça. Mais en fait, il y en a peu. Et je pense que c'est très difficile. Mais je ne sais pas si c'est très conscient. Enfin, ce n'est pas un effacement conscient. C'est, ça se fait peu à peu. C'est une sorte d'effritement. Chez Rimbaud, c'est pareil. Rimbaud, quand il part faire du commerce en Abyssinie, c'est-à-dire entre l'actuelle Éthiopie et l'actuel Yémen, il y a quelques personnes qui ont entendu parler de lui à Paris en tant que poète et qui lui disent alors, vous étiez poète. Il ne veut pas entendre parler de ça. Mmh. Il dit, mais tout ça, c'était que des rognures. Il dit, en parlant de sa poésie, c'était des rognures.
C'est rock, c'est humain, c'est rimbaldien. Cite Barrett, le rock et autres trucs. Signé par vous, Jean-Michel Espitalier, aux éditions Le Mot et le Reste. Merci.
Merci.
Bonne journée. Dans un instant, une future rockstar peut-être, Juliette, 7 ans, viendra réciter un poème.
Nova. De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
S'il pouvait s'embrasser lui-même, il le ferait.
Tu t'appelles Juliette alors?
Oui.
Juliette, tu sais d'où vient ce prénom ou pas?
Non.
Est-ce que tu sais que ce prénom, c'est le prénom d'une des plus belles, d'une pièce incroyable de Shakespeare qui s'appelle Roméo et Juliette?
Oui.
Tu sais de quoi ça parle, cette histoire?
Pas vraiment.
Ben, c'est une histoire que maman ne t'a pas encore racontée, mais que tu vas beaucoup aimer. Qu'est-ce qu'elle fait, maman, alors, dans la vie?
Elle est journaliste.
Elle travaille?
À la radio.
Et donc, tu l'écoutes à la radio?
Oui.
Mais sur quelle radio?
Est-ce qu'on a le droit de le dire?
Non. Sur Nova.
Ah, voilà.
T'es un peu
donc, tu sais ce que c'est, la radio?
Oui.
C'est parler dans un micro à des gens qui écoutent chez eux. Ou à la maison.
Oui.
Ou chez eux, ou à la maison.
Ou à la maison, pardon. C'est là où dans la voiture. J'ai mon huissier ici pour me contrecarrer. Qu'est-ce que tu vas nous dire comme poème?
Mon stylo, de Robert Gélis.
Voilà. Qui a très bien connu François Rollin. Donc voilà, donc il connaît le poème par cœur, il pourra te corriger si ça marche pas. Oui. À toi, vas-y.
Mon stylo. Si mon stylo était magique, avec des mots en herbe, j'écrirais des poèmes superbes. Avec des mots en cage, j'écrirais des poèmes sauvages. Si mon stylo était artiste, avec des mots les plus bêtes, j'écrirais des poèmes en fête. Avec des mots de tous les jours, j'écrirais des poèmes d'amour. Mais mon stylo est un farceur qui n'en fait qu'à sa tête et mes poèmes sur mon cœur font des pirouettes.
Bravo,
bravo.
Robert Gélis. Il y avait maman là, qui est là, qui avec les lèvres soufflait un petit peu. Ça a bien... Tu l'as appris où ça, à l'école?
Oui, et puis après je leur ai appris un peu pour...
Et tu connais des chansons aussi?
Des chansons...
Oui, est-ce que tu chantes aussi?
Oui.
Est-ce que tu as un visage à chanter avec des beaux yeux? Tu veux nous chanter une chanson aussi? T'as le droit? On a du temps. T'as encore une minute pour chanter une belle petite chanson.
Allez, vas-y.
C'est pas compliqué.
Ce grand truc de je sais pas, c'est très beau, c'est très bien.
Alors Atmen va nous chanter une petite chanson.
Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Non, je reste là, il y a Thierry Paris qui vient de rentrer.
Non, vas-y, non mais chante ma grande, fais-toi plaisir. Hein, vas-y,
qu'est-ce que tu ne me dis pas que tu connais la Reine des Neiges?
Si.
Ah, maman lui a
souffle à l'oreille, allez, vas-y, fonce.
La Reine des
Neiges. Vas-y, voilà, super.
Vas-y. Bah, allez, vas-y alors.
Je me souviens plus.
Libéré, délivré, le vent qui souffle en moi.
Ne pense plus à demain.
Nanana.
Garde trop fort. Enfin.
Garde tes pouvoirs, n'en parle pas.
Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tournant de sentiment. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré. J'ai décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon enfance en été, perdue dans l'hiver. Le froid est pour moi le fruit de la liberté.
Bravo,
bravo. Ouais.
Alors, si vous avez aimé Robert Gélis, vous tapez 1. Si vous avez aimé la chanson Disney, 2. Disney, c'était bien aussi. Voilà. Bravo, bonne école. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Rollin?
Ben, des gros baisers, Juliette.
Merci.
Je voudrais profiter de ce moment pour signaler que si vous aussi vous avez un enfant chez vous, un enfant qui rêve de dire un poème à la radio, voire même une chanson, et d'être comme ça soutenu par Atmen Khalif, vous pouvez faire une proposition. Hein, lamatinale@novaplanete.com. lamatinale@novaplanete.com. Vous écrivez ça avec votre stylo.
J'étais plus timide qu'elle, moi j'ai eu très peur.
Ah, j'ai vu ça. Les infos, Thierry Paré.
Jamais, vous m'entendez bien, jamais la Corée du Sud n'aura connu un tel scandale d'État. La vaste affaire de trafic d'influence qui a abouti à la suspension de la présidente du pays, c'était au mois de décembre, n'en finit plus d'éclabousser les dirigeants de la quatrième économie d'Asie. L'héritier de l'empire Samsung, il s'appelle Lee Jae-yong, vient d'être officiellement inculpé pour corruption, détournement de fonds, dissimulation d'actifs à l'étranger et parjure également. Quatre autres hauts responsables du conglomérat sud-coréen, sont menacés de mise en examen, également pour corruption et détournement de fonds au Brésil. C'est Petrobras, là-bas, c'est un autre scandale dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs. Donald Trump doit annoncer aujourd'hui au Congrès américain les grandes priorités de son budget 2018, au programme la sécurité aux frontières, le plan de modernisation des infrastructures, la réduction des réglementations environnementales et la défense. Et sur ce dernier point, le président américain a déjà annoncé la couleur. Il entend proposer une hausse historique des dépenses du Pentagone, augmentation de 54 milliards de dollars, qui serait en particulier compensée par une réduction de l'aide internationale. On n'a pas fini de parler de cette affaire, je pense. À deux mois de l'élection présidentielle, Axel Le Maire, qui joue sa réélection comme député de la troisième circonscription des Français de l'étranger, a décidé de quitter son poste de secrétaire d'État au numérique pour se consacrer aux législatives et éviter, je la cite, que sa circonscription, c'est la circonscription d'Europe du Nord, tombe dans les mains de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui, elle, aimerait bien bénéficier d'une trêve judiciaire pendant la campagne électorale. La candidate du FN estime notamment que la justice ne doit pas, je la cite, contrecarrer la volonté du peuple. Elle a en outre mis en garde les fonctionnaires qui répondraient à un personnel politique aux abois. À force, Laurence Blisson en a pris l'habitude. Les critiques sur la justice, elles sont quasi permanentes, mais le coup des menaces, franchement, c'est autre chose. La secrétaire générale du syndicat de la magistrature n'a pas de mots pour qualifier la dernière charge de Marine Le Pen contre les juges. C'est trop, s'agace-t-elle. Bernard Cazeneuve lui a répondu à François Fillon au sujet du climat de quasi-guerre civile en France, une accusation irresponsable, selon le Premier ministre. La nouvelle ligne SNCF Tour Bordeaux sera mise en service officiellement au mois de juillet. Elle va être inaugurée dès aujourd'hui. François Hollande sera sur place. Une ligne à grande vitesse, coût du chantier près de 8 milliards d'euros. Une ligne qui fonctionnera en partie grâce au privé, donc avec des actionnaires, un peu sur le mode des autoroutes, et beaucoup s'inquiètent du coup d'ores et déjà du prix des billets, qui n'a pas encore été annoncé. Le mystère reste entier à Nantes, autour de la disparition de la famille Troadec. Le couple Dorvaux et ses deux enfants n'a plus donné signe de vie depuis maintenant 12 jours. Une information judiciaire a été ouverte hier soir par le parquet de Nantes. La police s'intéresse toujours de très près à l'un des fils du couple qui avait coupé les ponts avec sa famille. Deux richissimes touristes vont réaliser un vol autour de la Lune à la fin de l'année prochaine. C'est une annonce de la société américaine SpaceX, fondée et dirigée par le milliardaire Elon Musk. Aucune mission habité n'est retourné dans l'orbite lunaire depuis la mission Apollo 17 de la NASA. C'était en décembre 1972. Des chercheurs de l'université Queen Mary de Londres sont parvenus à apprendre à des bourdons à placer une bille dans un trou. Alors pourquoi, c'est une autre question, mais en tout cas leur étude met en évidence une capacité d'apprentissage jusqu'ici inconnue, à savoir la maîtrise d'une tâche entièrement nouvelle pour eux.
Alors essayez dans un trou.
Essaye, Armel, par exemple, de te déguiser en bourdon, donc sans bras et sans main, et essaye de mettre une bille dans un trou. Tu verras que c'est pas simple.
Mais quand ils font ça avec le dard, comment ils chopent la bille
avec les petites ailes.
Non,
les papates.
Ils
ont pas des grosses papates quand même.
Les petites papates, une petite bille.
Et la bille, elle fait quelle poêle, elle fait quelle taille par rapport à
l'image que j'ai vue. C'est une bille d'enfant quand on joue aux billes dans la cour, voilà. Et donc le bourdon est dessus, comme si.
Voilà.
Enfin dessus quoi.
Ah d'accord. Voilà. Comme s'il faisait de l'aquagym,
Voilà. Et donc il roule avec, mais il le met dans le. Il va mettre la bille dans le trou.
Bah c'est super.
On termine avec le début des huitièmes de finale de la Coupe de France de football ce mardi. Là aussi, il faut mettre une. Là, c'est un ballon en l'occurrence dans un endroit bien précis. Bastia va recevoir Angers et Fréjus Saint-Raphaël va recevoir Auxerre à 18h. Et puis ensuite, Bordeaux recevra Lorient à 21h. Les autres rencontres, et notamment New York PSG, ce sera demain. Il y aura aussi demain Marseille-Monaco.
On va peut-être avoir une équipe de foot de bourdon.
Qui sait ?
Ils ont déjà le maillot de la Juventus, sont rayés.
Superbe ! Alors, je rappelle que Norbert est en tournée mondiale avec les Rolling Stones.
Ça s'entend même. Celle-là, elle aurait été dure à placer.
François Rollin vous rappelle l'heure, évidemment.
Oui, il est 14h51, donc tout bientôt 15h en ce dimanche.
L'animal du mardi.
L'animal du mardi, François.
Mais oui, l'animal du mardi, cette semaine, c'est l'hippopotame. Alors c'est en réalité un hippopotame normal, mais avec un pot en plus. Un pot qui est en l'occurrence, peu de gens le savent, un pot d'échappement. Ce pot supplémentaire confère à l'hippopotame une meilleure carburation et lui permet d'atteindre des vitesses très élevées, grâce auxquelles l'animal peut, sur route sèche, dépasser une coccinelle ou même une belette de course. Des scientifiques se sont amusés à croiser l'hippopotame avec d'autres animaux. Et là, je tiens à dire que je suis farouchement opposé à ce genre de manipulation génétique qui viole les lois de la nature, Armel, pas moins. Il y a un scandale à dénoncer, un scandale dont il faudra châtier impitoyablement les coupables. Vous voyez, j'en perds ma voix.
Vous avez un chat dans la gorge.
C'est l'indignation. Alors, ils ont donc croisé l'hippopotame successivement avec un éléphant, un sanglier et une hirondelle. Et à chaque fois, ça c'est passionnant quand même, sur le plan chromosomique, l'hippopotame transmet son gène de peau. On a donc obtenu un élépophant, un sampoglier et une hippo-rondelle. Aucun des trois n'a survécu au-delà d'une semaine.
Merci François Rollin pour toutes ces informations.
Magnifique.
L'autre animal du mardi, c'est Charlène qui l'a inventé.
Oui, tout à fait. Hier, Edouard, avant de partir, de nous quitter, nous m'a dit qu'une seule chose lui ferait vraiment plaisir en son absence, ce serait la rubrique « Un homme chic, une bête choc ». J'ai donc produit un petit son sur ce thème.
C'est Philippe Noiret.
Philippe Noiret, tout à fait.
Qui nous parle de son chien.
Ah, lui, c'est l'homme chic, voilà. Et la bête choc, c'est son chien.
Vous connaissez ces bandes dessinées, Snoopy ? Ben, il est très proche de ça, enfin, et je crois que le dessinateur de Snoopy a dû avoir soit un Bill, soit un Basset, comme ça, Hound ou d'Artois, parce que ils ont une façon de se comporter bien particulière.
Il a un grand cœur, il est gentil, Snoopy.
D'ailleurs, c'est un grand boudeur aussi. Quand je pars tourner maintenant et que je le laisse, et que je reviens, il a une première réaction de contentement quand je rentre, mais tout de suite après, il se reprend et il me tourne le dos pendant 24 heures, quoi, ou 48 heures, il fait la tronche. On a été le chercher avec mon ami Jean Rochefort un matin. Seulement maintenant, il a 11 ans. Il fait de l'œdème cardiaque, il a un énorme bidon, il court les poubelles. Alors évidemment, physiquement, ça n'est plus le beau jeune homme qu'il a été. Maintenant, il n'y a plus que la bouffe qui compte, hein. T'as pas honte?
T'as pas honte?
C'est magnifique parce qu'il y a la musique de Alexandre le Bienheureux, où il a un rapport avec son chien incroyable, où il a un rapport avec un petit ratier qui est magnifique. Et entendre ça, ça a fait ma journée.
Merci. Ça fait deux fois le mot magnifique en une seule phrase.
Vous n'allez pas me contrecarrer sur mon vocabulaire quand même tout le temps, non? J'en ai marre.
Jack Souvent.
Moi, je viens de voir passer Superman et le Joker, mais vous savez que c'est Mardi Gras aujourd'hui, non? C'est pas ça?
Oui, ouais, c'est Mardi Gras, on l'a pas dit.
Personne n'en parle, personne n'en parle.
Bah si, vous en parlez, c'est déjà bien.
Moi, je savais pas.
Si, c'est Mardi Gras, mais tout le monde s'en fout.
Moi, je continue ma petite enquête sur vouloir et pouvoir, je suis désolé. Et je sais pas votre prénom. Alban. Alban, vous, on a avancé sur le sujet, vous m'avez dit, la volonté finalement... quand on veut, on peut, dans cette superbe phrase, la volonté, c'est initiatique, quoi. C'est initiateur, c'est le début, c'est juste le début, c'est juste la décision.
Oui, tout à fait. Franchement, moi, en tant que skater, il n'y a rien avant la volonté, hein. La volonté, c'est le point de départ, c'est la petite impulsion. Et une fois qu'on a ça, on est capable de faire toutes les figures de skate. Voilà, et autre chose, d'ailleurs. On peut même ramener des filles. C'est très facile.
Ah oui, avec un skate. On peut ramener des filles, ça c'est vrai.
Et dites-moi alors, vous vous entraînez à faire du skate, vous faites des trottoirs, des barrières, Allô, vous m'entendez ?
Oui. Je fais toutes sortes de choses du coup, hein, grâce à cette volonté. Hein.
D'accord.
J'ai toujours faim, quoi. J'ai toujours envie de faire de nouvelles choses, donc je fais des slides.
C'est ça.
On appelle des slides, c'est-à-dire glisser sur le bord de la planche, je fais des figures sur le sol, je fais beaucoup de choses diverses.
Sur des rambardes. Il y a combien de chutes avant d'arriver à faire des figures? Combien de mois de chutes?
Oh, il y a... Bah, ça, c'est variable, hein. Mais en tout cas, il en faut. Il en faut, hein. Parce que si on tombe pas, on réussit pas, hein. L'échec, c'est...
Mais c'est pas vrai, ce truc-là de toujours dire il faut des efforts.
Mais il a très bien dit, comme en boxe, si on ne tombe pas, on réussit pas. Il a raison de le dire.
Mais oui, et moi, je pense que c'est le système éducatif français aussi qui nous met ça dans la tête. Genre, avoir 7 sur 20 en maths, c'est une grosse honte, c'est le déshonneur. C'est pas vrai, c'est bien d'avoir 7. Comme ça, après, on voit ça, on prend la correction au tableau, et après, bah, on est méga fort en maths, quoi.
Et Alban, quelle différence faites-vous entre la volonté et le désir ?
Ouh, j'ai étudié cette question à la fac. Hein,
mais oui, c'est pour ça, je vous demande de me rappeler rapidement le distinguo.
La volonté et le désir. Je pense que le désir, ça vient un peu naturellement quand on rencontre quelqu'un ou quand on fait du skate à force. C'est quelque chose de plus naturel. La volonté, c'est vraiment un travail. Ça découle de quelque chose de plus cérébral, je dirais. Enfin, pas cérébral, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi.
Ah oui, donc on peut imaginer qu'on puisse avoir le désir d'avoir de la volonté.
Voilà, je ne sais pas. Hein. Ça devient très. Je pense que le désir, les deux sont très importants et ils sont complémentaires dans tous les cas.
Super bien répondu. Hein.
On va vous laisser réfléchir à tout ça et on retrouve Jack souvent.
Continuez à skater.
Oui,
mettez-le sur une planche.
On peut avoir de la volonté aussi, parce que si on ne peut pas faire certaines choses, c'est pas grave non plus.
C'est trop compliqué. Voilà la pub.
7h-9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
7h-9h.
Édouard Baird.
Je m'éclate, j'en peux plus.
Nova.
À 8h14, François Rollin vous donne l'heure.
Oui, il est toujours 23h02. Oh zut, j'ai encore ri, les auditeurs ont dû s'apercevoir qu'il s'agit d'une blague. Bon, je réessayerai tout à l'heure.
Une blague qu'on tient depuis 7h ce matin. Enfin, je ne sais plus quelle heure d'ailleurs.
Voilà, il était 5h.
À quoi mène la guerre contre la drogue? La prohibition est-elle une bonne idée? Thomas, je sais que ces questions vous taraudent, elles vous empêchent de dormir, hein, tout comme ces drogues puissantes que vous prenez le soir à 21h.
Je suis, tel que vous me voyez, complètement taraudé, mais pas drogué, parce qu'il faut avoir quelques idées claires pour dialoguer avec Quentin Sauzet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à l'origine d'une tribune qui va paraître dans Le Monde tout à l'heure, Le Monde du jour, datée de demain, c'est la finesse du journal Le Monde. Une tribune qui paraît signée par des juristes, des élus, des scientifiques, des membres de la Ligue des droits de l'homme, des gens connus, des gens moins connus, qui posent effectivement cette question qui est au plus large d'ailleurs celle de la politique publique, les politiques publiques autour des drogues. Et dans cette tribune, vous rappelez une chose, c'est que le taux de consommation en France est le plus élevé d'Europe pour l'usage du cannabis chez les 15-34 ans. Grosso modo, vous mettez sur la table l'échec évident des politiques publiques des drogues. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait alors qu'on est dans une période qu'on appelle campagne présidentielle?
Oui, exactement. En fait, il y a un paradoxe français, c'est qu'on a les taux de consommation les plus élevés en Europe et on a pourtant la loi la plus répressive. Cette loi, elle a bientôt 50 ans. Elle a été
décidée, loi de 70.
Votée, voilà, le 31 décembre 70. Et désormais, en fait, il y a plus que par le passé, il y a vraiment un grand bloc d'acteurs publics qui sont tous d'accord maintenant pour dire qu'il est vraiment temps de s'asseoir, de mettre toutes les parties prenantes autour de la table, exprimer les peurs, les opinions, les sensibilités et s'interroger sur quelle est cette nouvelle feuille de route. Quelle est la société qu'on veut face à cette politique publique de la drogue?
Il y a des signataires de cette tribune qui ont été ministres. Roselyne Bachelot, Daniel Vaillant, qui a été ministre de l'Intérieur. Il y en a d'autres. Il y a Jean Glavany, il y a Bernard Kouchner. C'est assez mélangé, même politiquement. Donc la question qui se pose, c'est celle du moment. Et vous dites que l'opinion est prête.
Oui, en fait, il y a un sondage qui est passé un peu en catimini, mais qui dit quand même que 84% des Français juge cette loi inefficace. Donc aujourd'hui, l'opinion publique est prête. Elle regarde évidemment ce qui se passe à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, en Uruguay, et plus proche de chez nous, au Portugal, en Allemagne, où véritablement, en fait, cette vision d'un monde sans drogue se fissure. Et évidemment, les acteurs, les parties prenantes de la société civile regardent quelle serait une réponse beaucoup plus rationnelle à cette question. On a essayé sur cette tribune de rassembler des parties prenantes extrêmement variées. Le but, ce n'est pas de pousser vers une solution. Le but, c'est d'amener un débat. Et donc, c'est pour ça que vous retrouvez des gens de sensibilité de gauche, de centre et de droite. Et c'était véritablement important pour nous de faire sortir, justement, ce débat d'une approche binaire qu'on entend souvent dans les médias, qui est « Êtes-vous pour ou contre la légalisation ?» Parce qu'à chaque fois que vous posez cette question aux gens, ils n'entendent qu'une question morale qui est « Êtes-vous progressiste ou conservateur ?» Et aujourd'hui, il est grand temps de permettre aux personnes de regarder les chiffres, de regarder les comparables et de prendre une décision rationnelle sur le sujet.
Mais Quentin Sauzet, c'est quoi l'intérêt aujourd'hui, d'après vous, de ce statu quo face à cette loi qui manifestement fonctionne mal?
Alors, il y a plusieurs forces en présence. Aujourd'hui, en tout cas, les plus grands gagnants du statu quo, ce sont les trafiquants de drogue. Les consommations sont en hausse, ils n'ont jamais été aussi puissants, ils sont lourdement armés et ils constituent au sein même de notre territoire des enclaves où les forces de police n'osent plus aller. L'autre réponse, c'est qu'en fait, on a des élites dominantes, politiques, économiques, qui sont blanches et qui sont plutôt mâles. Et ces gens, ils sont très éloignés du problème. Et donc, véritablement, quand vous parlez aux acteurs, plus vous prenez des acteurs de terrain, plus vous prenez des acteurs qui sont proches du problème, plus le consensus existe. Et donc véritablement, aujourd'hui, il faut dire quelle est la vérité, quelle est la réalité de notre politique publique en la matière. De facto, c'est dépénalisé pour les Blancs. Voilà. C'est dépénalisé pour les petits bourgeois qui ne se font jamais contrôler, qui ne se font jamais emmener au poste par les forces de police. Et par contre, la réalité de notre politique publique en la matière, elle est très intéressante et il faut la poser dans son cadre inégal. Pourquoi ? Aux États-Unis, vous avez 50% des individus qui sont incarcérés, qui sont afro-américains, alors qu'ils représentent 15% de la population des usagers. En Angleterre, vous avez, quand vous êtes noir, 6,5 fois plus de chances d'être contrôlé ou fouillé dans le cadre des infractions de la législation des stupéfiants. En France, malheureusement, on n'a pas de statistiques ethniques, mais on peut vraiment deviner, a priori, quelle est la réalité de terrain. Et quand vous allez parler aux acteurs et que vous regardez ce qui se passe dans les quartiers, je pense que vous savez très bien ce qui se passe.
Vous dites aujourd'hui, ce n'est pas dangereux, quand on est blanc bourgeois, de fumer du cannabis, quasiment,
non,
à l'égard
en fait,
de la loi.
Ce qui se passe, c'est que pour quelqu'un, si on parle vraiment en termes d'opportunité, aujourd'hui, un petit blanc n'a aucun problème avec cette politique. D'accord ? Il se fait livrer chez lui son produit par des types qui sont déguisés en Deliveroo. Le produit n'a jamais été aussi disponible, la qualité augmente et les prix sont compétitifs parce qu'il y a beaucoup plus d'offres qu'avant. Donc concrètement, pour ces gens-là, ce n'est pas un problème, on peut continuer assez longtemps. Par contre, pour les gens et les populations qui sont confrontés au quotidien, soit par, en tant qu'habitants dans ces quartiers, soit parce qu'ils sont ciblés par les forces de police, parce qu'il y a, et ça il faut le dire aussi, une incitation très forte au sein des forces de police pour pratiquer ces contrôles. Puisque vous avez une politique du chiffre, et entre 90 et aujourd'hui, ça a été multiplié par 5 ou 6 ces interpellations liées à l'infraction aux législations sur les stupéfiants. Et donc concrètement, aujourd'hui, les forces de police sont incitées, si vous voulez grimper dans l'hiérarchie, puisque à chaque fois que vous attrapez un petit fumeur, c'est considéré comme une affaire résolue. Et je vais finir juste là-dessus, sur la question de la police, c'est important. Je parlais encore avec un syndicat de police il y a 2 semaines, qui n'est pas connu pour être très 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 progressiste, et qui me disait, on n'arrive plus à contrôler nos éléments, les plus têtes brûlées, nos collègues, qui concrètement utilisent cette législation pour aller dans les quartiers. Et quand ils voient un groupe de jeunes, 10 jeunes, ils savent qu'ils vont pouvoir leur mettre la misère en les contrôlant, puisqu'ils trouveront toujours une barrette de shit dans leur poche.
Donc on comprend, Quentin Sauzet, qu'à travers cette tribune politique publique des drogues, admettre l'échec et après qui doit paraître dans le monde aujourd'hui, que vous mettez sur le tapis une question qui est liée aux drogues, mais pas que, qui est une vraie question de société, ce serait quoi les conséquences d'une réforme au-delà de, justement, atténuer cette question de la discrimination sur la justice, par exemple, sur la santé ou sur l'économie ?
Oh, les conséquences sont multiples. Véritablement, tout va dépendre de la feuille de route qui va en sortir. On commence à connaître les notions qui sont évoquées à chaque fois, dépénalisation, légalisation, régulation. Et on commence à regarder à l'étranger quelles sont les conséquences et on en est bien conscient. Ce qui est sûr, c'est que la première conséquence de décriminaliser notre approche en la matière, c'est de libérer les forces de police d'un travail qui aujourd'hui est inefficace et leur fait perdre du temps dans un contexte sécuritaire assez compliqué. De l'autre côté, les services judiciaires, eux, se retrouvent complètement engorgés par ces infractions. Et donc, il faut véritablement soulager, en termes de finances publiques, ces questions-là. En termes de santé publique, arriver à contrôler une filière, si c'est possible, pour mieux comprendre ce qui se passe dans le marché noir. Et au niveau des quartiers, apaiser la situation qui est aujourd'hui assez compliquée.
Oui, mais la légalisation du cannabis ne va pas entraîner une légalisation Je vais mieux m'exprimer parce que ça me
difficile.
Je recommence. Oui. Est-ce qu'il n'y aura pas un autre marché, celle des drogues dures, justement, qui remplaceront justement le cannabis ? Parce que quand on voit ce qui se passe à Toulon avec ces rugbyman arrêtés pour de la cocaïne ou d'autres trucs, est-ce qu'il ne va pas y avoir justement le marché noir par les trafiquants d'une drogue beaucoup plus dure ?
Quentin Sauzet.
Mais c'est une très bonne question. Et en fait, c'est justement.
Merci.
Non, mais c'est toutes ces interrogations qui doivent être posées autour de la table lors d'un grand débat national. Et quand on regarde à l'étranger, pour vous répondre précisément, en fait, ces mécanismes n'existent pas avant. Il n'y a pas un report systématique de la criminalité sur la question. La seule chose qui compte, c'est véritablement aujourd'hui d'aller signer cette pétition sur écocitoyen.org, d'aller lire cette tribune, d'en parler et de soutenir l'action pour faire en sorte que cette loi 70 et ce statu quo deviennent intenables.
Et normalement, les candidats à la présidentielle doivent parler de cette question-là demain, c'est ça ?
Oui, exactement, exactement. Demain, il y a un grand événement au CNAM où tous les candidats ou leurs représentants vont présenter leur politique publique en la matière, notamment donc de politique publique des drogues. Et il est grand temps pour nous, et on va tous les interpeller, pour qu'il se positionne par rapport à cette tribune et qu'il s'engage à l'organisation de grandes assises nationales sur la question.
Le CNAM, c'est le Conservatoire National des Arts et Métiers. Merci beaucoup, Quentin Sauzé. À bientôt.
Merci.
7h-9h, plus près de toi. De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. Je suis pressée là.
Quelles belles histoires la presse a-t-elle craché dans ses pages physiques ou numériques ce matin ? Réponse maintenant.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal ? La revue de presse de Marie Misset.
Bonjour Marie.
Bonjour Armel. Bonjour François.
Bonjour.
Bonjour Nicolas. Alors je vais commencer cette revue de presse avec une sorte de hors-sujet puisque je vais pas en reparler après et puis c'est un petit tacle en même temps. Hier nous raconte l'humanité, iTélé est devenu CNews. Yeah. C'est un doute parce que ça sonne plus américain. Juste avant de devenir CNews, iTélé traitait de la disparition de la famille Troadec à côté de Nantes. C'était dimanche soir. Et pour en parler, ils sont venus venir une profileuse. Eh bien, elle s'est révélée, nous dit l'humanité, cette profileuse, eh bien, être une voyante, médium, astrologue et coach à Nantes. Voilà, c'est de bon augure pour cette chaîne d'information. Continue.
Dites voir, Marie, il faut dire pour les auditeurs qui nous rejoignent maintenant que nous nous réjouissons tous que Édouard Baird ne soit pas là pour vous couper la parole à tout bout de champ, intervenir n'importe comment, comme il le fait en général quand vous faites votre revue de presse. Et nous, c'est vrai, on est là autour, on se dit, mais qu'il lui foute la paix à Marie Misset, qu'il lui laisse faire sa revue de presse, et non, lui, il faut que blablabla, il va faire son petit commentaire, il va dire gna, des choses sans intérêt, hein, et qui rallonge le truc.
Qui me coupe dans mon truc, et qui font que je suis pas à l'aise ensuite pour redémarrer.
Voilà, c'est ça, voilà, que vous avez un mal fou à redémarrer, et ça, Edouard, il
s'en rend pas compte. Et qui nous met en retard à chaque fois,
parce
qu'il
parle, il parle. C'est tout faux, tous les inconvénients.
Ni fait ni à faire.
Il est pas là, j'ai envie de dire, profitons-en bien.
Merci François. Merci. À peine ça suffit maintenant.
La suite de la revue de presse, Marie Misset.
Sans transition aucune, les Échos consacrent aujourd'hui une pleine page aux oubliés du numérique. Ces citoyens restés sur le bord de la route, 8 millions de Français de plus de 12 ans n'ont pas accès à Internet. 7 millions admettent qu'ils ne savent pas vraiment comment s'en dépatouiller. D'autres, comme à Favril, petit village, vivent avec une connexion extrêmement lente en attendant la fibre. En attendant, les services publics se sont, eux, numérisés très rapidement. 36% des employés de Pôle emploi, par exemple, vous renvoient sur le site internet quand vous les appelez. Alors, il y a plusieurs conséquences à tout ça. D'après Jacques Toubon, le défenseur des droits, d'abord, un public vulnérable, eh bien, il a encore moins accès à l'information qu'avant. Ceux qui ne passent pas par internet subissent par ailleurs un service public dégradé. Et surtout, beaucoup, d'après l'anthropologue Pascal Plantard, cité dans Les Échos, finissent par, épuisés par leur incompréhension du clic droit, abandonner tout simplement leurs droits. Alors, dans une société hyper connectée, il y a un autre aspect à ce qu'on appelle la fracture numérique, c'est que ceux qui en souffrent ont désormais l'impression que l'histoire avance sans eux et qu'ils sont des citoyens de seconde zone. Le New York Times nous apprend qu'aux États-Unis, ce sont les bibliothèques publiques qui tentent de plâtrer cette fracture numérique. Depuis 2014, les bibliothèques publiques de New York et de Chicago, imitées par beaucoup d'autres ensuite dans le pays, prêtent des bornes Wi-Fi à leurs usagers. Elles poursuivent ainsi leur vocation, fournir un accès à la connaissance à tous les citoyens qui le désirent. Parfois, elles vont un petit peu plus loin, ces bibliothèques publiques. Aux États-Unis, elles sont en effet souvent devenues des lieux refuges, voire des lieux militants. Le Guardian nous apprend que dès le mois de novembre, le 30 exactement, et suite à l'élection de Donald Trump, la bibliothèque publique de New York a annoncé qu'elle changeait sa politique de sauvegarde des données et promettait maintenant de détruire celle-ci avant qu'elle ne puisse être utilisée contre les lecteurs. Puis c'est pas pour casser l'ambiance, mais en continuant à lire la presse internationale, j'ai justement lu dans le New York Times à propos des militants anti-Trump que les militants anti-Trump ne servaient pas toujours leur propre cause. C'était dans le New York Times qui est vendu avec le Libé du jour aujourd'hui. On y lit que ceux qui ont voté Trump mais le regrettent sont tellement méprisés et moqués par les libéraux qu'ils finissent par ne pas rejoindre leur rang. On m'a mis dans une case, dit l'un d'eux, on m'a prêté des opinions que je n'ai pas. Ils se plaignent que Trump est méchant, dit un autre, mais ils sont devenus super méchants eux-mêmes. Le nœud de la chose, c'est peut-être bien que la réconciliation n'intéresse pas tellement les anti-Trump qui ne veulent pas pardonner à ceux qui ont voté pour un homme qui a promis de supprimer l'Obamacare, par exemple, et finit par dire 3 mois plus tard, comme le rapportait CNN hier, que personne ne savait vraiment avant que la sécurité sociale était un truc si compliqué. D'après le New York Times, beaucoup comparent l'ambiance actuelle aux États-Unis à celle pendant la guerre du Vietnam, tandis qu'un prof de sociologie de Stanford y va encore plus fort. Il n'y a qu'une seule période avec laquelle on peut faire une analogie, c'est la guerre de sécession et la période qui a suivi.
Merci Marie-Michel pour toutes ces informations.
Comme ça, on opinait du chef.
Qu'est-ce que vous dites, Atmen Khelif ?
On opinait du chef pendant que Marie-Michel parlait, c'est magnifique.
Pour ceux qui n'ont pas l'image,
j'ai dit magnifique effectivement.
Édouard Bernet n'est pas là ce matin, il est en formation PowerPoint, c'est bien, c'est utile dans son métier. Tout de suite, les informations.
Thierry Paris.
Oui, parce qu'il est 18h quand même. Hein. Le mystère reste entier à Nantes autour de la disparition de la famille Troadec. Le couple Dorvaux et ses deux enfants n'a plus donné signe de vie depuis maintenant 12 jours. Une information judiciaire a été ouverte hier soir par le parquet de Nantes. La police s'intéresse toujours d'assez près à l'un des fils du couple qui avait coupé les ponts avec, avec sa famille. Donald Trump doit annoncer aujourd'hui au Congrès américain les grandes priorités de son budget 2018. Au programme, la sécurité aux frontières, le plan de modernisation des infrastructures, la réduction des réglementations environnementales et puis surtout la défense. Sur ce dernier point, le président américain a déjà annoncé la couleur. Il entend proposer une hausse historique des dépenses du Pentagone, une augmentation de 54 milliards de dollars qui serait en particulier compensée par une réduction de l'aide internationale. Jamais la Corée du Sud n'aura connu un tel scandale d'État. La vaste affaire de trafic d'influence qui a abouti à la suspension de la présidente du pays au mois de décembre n'en finit plus d'éclabousser les dirigeants de la quatrième économie d'Asie. L'héritier de l'empire Samsung, il s'appelle Lee Jae-yong, vient d'être officiellement inculpé pour corruption, détournement de fonds, dissimulation d'actifs à l'étranger et parjure. Quatre autres hauts responsables du conglomérat sud-coréen sont menacés de mise en examen, également pour corruption et détournement de fonds. À deux mois de la présidentielle, Axel Le Maire, qui joue sa réélection comme député de la troisième circonscription des Français de l'étranger, a décidé de quitter son poste de secrétaire d'État au numérique pour se consacrer aux législatives et éviter, je la cite, que sa circonscription d'Europe du Nord tombe dans les mains de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui aimerait bien bénéficier d'une trêve judiciaire pendant la campagne électorale. La candidate du FN estime notamment que la justice ne doit pas, je cite, contrecarrer la volonté du peuple. Elle a en outre mis en garde les fonctionnaires qui répondraient à un personnel politique aux abois. Attaquer la justice, c'est un grand classique, estime Virginie Duval, présidente de l'Union syndicale des magistrats, et d'ajouter, c'est ce qu'on appelle faire diversion. On savait que ça allait arriver. On se demandait juste quand, et bien voilà, c'est fait. La nouvelle ligne SNCF Tour Bordeaux sera mise en service officiellement au mois de juillet, le 2, mais elle sera inaugurée dès aujourd'hui. François Hollande sera sur place. Ça va être une ligne à grande vitesse. Coût du chantier, près de 8 milliards d'euros. Une ligne qui va fonctionner en partie grâce au privé, donc avec des actionnaires, c'est nouveau. C'est un peu sur le mode des autoroutes, en fait. Beaucoup s'inquiètent donc d'ores et déjà du prix des billets qui n'a pas encore été dévoilé.
Mais Thierry, vous nous parlez toujours de Tours-Bordeaux, mais c'est la ligne Paris-Bordeaux, non ? C'est le fameux Paris-Bordeaux en deux heures ?
Oui, mais là, enfin, en fait, ce qui va être privatisé, c'est Tours-Bordeaux.
D'accord.
C'est alors, là où ça va être alors plus cher.
Donc ce sera un billet en deux temps, un billet Paris-Tour, encore je sais pas comment à l'ancienne mode.
Ça, c'est pas, je sais pas.
Faudrait que ça marche. Paris-Bordeaux en deux heures, c'est bien.
Oui. Je pense que ça va être le prix du billet dans son ensemble. Mais en tout cas, cette partie-là va être plus chère de fait. Quoi.
Oui, c'est ça. Oui.
Deux richissimes touristes vont réaliser un vol autour de la Lune à la fin de l'année prochaine. C'est une annonce de la société américaine SpaceX, fondée et dirigée par le milliardaire Elon Musk. Aucune mission habitée n'est retournée sur l'orbite lunaire depuis la mission Apollo 17 de la NASA. C'était en décembre 1972.
Vous pensez que ça a changé depuis la Lune?
Je pense qu'il n'a pas trop bougé. On ne sait pas, on n'y est pas allé.
En tout cas, s'ils sont mariés, ça leur fera vraiment une lune de miel.
Voilà,
et
voilà.
Puis dites-leur une chose, c'est que s'ils ont l'intention de m'offrir ce voyage-là, je ne prends pas. J'en veux pas du cadeau.
Moi, j'hésite.
Ah oui ?
La suite.
Le département d'État américain a publié puis effacé hier un message de félicitations à l'intention du réalisateur iranien Asghar Farhadi, qui a remporté, vous le savez, dimanche l'Oscar du meilleur film étranger pour Le Client. Asghar Farhadi a refusé d'assister à l'événement pour protester contre le décret présidentiel interdisant provisoirement aux ressortissants de 7 pays musulmans, dont l'Iran, de se rendre aux États-Unis. Il se nomme Paul Rose, il est britannique, guitariste et il a peur de rien. Il vient de porter plainte contre U2. Il accuse les Irlandais d'avoir piqué des parties d'une de ses chansons pour composer le titre The Fly, qui est sorti en 91. Paul Rose réclame 5 millions de dommages et intérêts. Il souhaite aussi être crédité pour ce titre. J'ai écouté, c'est pas probant. Hein. C'est
pas, gonflé, dis donc.
Pas évident, évident. On termine avec le début des huitièmes de finale de la Coupe de France de football ce mardi. Bastia va recevoir Angers et Fréjus Saint-Raphaël va recevoir Auxerre. Ces deux rencontres vont débuter à 18h. Ensuite, à 21h, Bordeaux recevra Lorient. Et demain, il y aura notamment New York PSG et Marseille-Monaco.
Alors, Atmen va absolument prendre la parole. Atmen, quel
oui, moi je voulais dire quand même qu'on revient sur l'information de la mort de Bill Paxton, qui jouait dans Titanic. C'est lui qui renflouait le Titanic, qui partait en mission. Il était dans Terminator. Il jouait le Private Hudson et il est mort d'une complication cardiaque et d'une opération. Et nous avons son sosie sur le plateau, c'est François Rollin. Alors vous allez sur Internet, vous vérifiez Bill Paxton et François Rollin. Alors j'ai le sosie donc de Bill Paxton qui est Monsieur Rollin.
Yes, welcome at Atmen Khelif.
Yes, Titanic, ça a été difficile Titanic ou pas?
Well, Titanic was a good experience.
Titanic était une bonne expérience.
Very detended every day.
Très détendu. chaque jour.
I have a full amitié with Leonardo.
Je suis très ami avec Leonardo.
And I just regret that I am mort maintenant. Quoi. Ça, c'est
simplement,
c'est
il regrette d'être mort maintenant.
Et vous avez dit que c'était un film profond à l'époque, Titanic.
Yes. Oui. Profondeur of 100 meters.
Oui, une profondeur de 100 mètres. Peu
d'accord. Yes. Vous avez fait un film qui s'appelait L'Emprise. Vous pouvez en parler ou pas?
Yes, The Emprise. The title in English. Bon, bah, The Emprise,
c'est
it is a story of someone who, who takes someone else.
L'histoire de quelqu'un qui prend quelqu'un d'autre.
Yes, sexually.
Sexuellement.
And Didi, I am proud of you. Didi, oh boy. C'est bon.
J'ai pas compris, mais...
Eh bien, écoutez, ils vous attendent aux États-Unis pour le remplacer. Merci beaucoup, Monsieur Rollin.
C'était un grand honneur. Tito.
Alors hier, je suis allé au Salon de l'Agriculture. Alors, je vais vous parler un petit peu du salon, hein, pas trop longtemps non plus. Je suis rentré dans le salon et j'ai entendu de la musique très très fort, très très fort. Alors je suis rentré, je me suis avancé, je suis allé jusqu'au fond. Et au fond, à droite, il y avait un comptoir avec plein de jolies filles habillées en doudou. C'était super, elles m'ont fait coucou, puis elles nous tendaient des verres. Alors on s'est approché, on a commencé à boire des petits poches. Et puis après, il y avait du bois bandé, il y avait du rhum, il y avait du machin, on a mangé des petits boudins entiers. C'était vraiment super. Je vais vous dire un truc, la foire, hein, le salon, ça sent bon. Et par contre, à Agen, la météo sera...
On bascule sur la météo, là.
...de 4 à 9 à Avignon, de 2 à 14. À Bordeaux, de 7 à 12. À Corté, de 3 à 15. Marseille, de 6 à 14. À Poitiers, de 6 à 9. Saint-Étienne, de 2 à 9. Et accrochez-vous. Maman, là, c'est beau. Maman, là, c'est beau. Maman, là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Maman, là, c'est beau, doudou.
Merci beaucoup, Tito.
Bravo.
Donc, le salon, c'est un conseil, apparemment. Allez-y. Salon
oui,
allez,
ouais.
Jack.
Ouais, c'est nous.
C'est qui vous?
Je suis avec Caro.
Salut.
Salut.
Caro, je viens de découvrir tout. Je suis rue de la Corderie dans le 3e. Je sais pas si vous connaissez.
Non, c'est vers où?
On me dit que c'est le petit village, c'est le Haut Marais, quoi.
C'est vers le carreau du temple.
Ah, voilà.
Ici, c'est petit village.
C'est mini village.
Et vous, quand on marche avec Caro, elle dit bonjour à une trentaine de personnes.
Voilà, c'est le matin et les gens se disent bonjour, se saluent, s'embrassent même parfois.
D'accord, c'est rue Gamma, quoi.
C'est un village, quoi. C'est un village dans Paris. Et il y a beaucoup de villages dans Paris. Il y a beaucoup de micro-endroits comme ça où les gens se connaissent, se parlent. Mais c'est souvent des gens qui ont des enfants, j'ai remarqué.
D'accord.
Voilà, c'est passionnant.
Qu'est-ce que vous faites, Caro, dans la vie?
Alors, voilà, je travaille à Poste, donc je vois beaucoup de gens le matin, et donc je les connais, voilà.
Très bien, vous avez un métier de proximité, donc.
Pourquoi vous voulez pas parler de votre métier? C'est faux, elle ne travaille pas du tout à la Poste.
Ah, bah, oui, je m'en doutais.
Oui, ouais, ça s'entend, vous n'avez pas une voix de postière.
Oui, elle ne se présente pas du tout aux élections du 3e.
J'ai une voix de quoi, alors?
Vous avez une voix de quelqu'un qui travaille dans un bar ou qui sort d'une nuit, je ne sais pas, quelqu'un qui a fait la fête, non?
Une voix d'agent double, je dirais, moi.
Merci de parler d'agent double, parce que vous êtes en train de griller ma couverture, de bon matin.
Bah avec plaisir.
Non, merci. Non, j'ai une voix rauque, c'est ça?
Oui, non, mais une belle voix.
Non, j'ai pas fait la fête, j'ai juste travaillé chez moi, tard devant mon ordinateur, en fumant des cigarettes,
voilà.
Je le confesse.
On y vient.
Et voilà. Non, mais sinon, je suis directrice de casting dans la pub, hein. J'ai rien de fantastique.
Alors, vos faits d'armes, c'est quoi? Vous avez trouvé qui pour quelle pub?
C'est hyper confidentiel.
Mais si, le petit gros qui fait la pub, comment
non,
ça s'appelle?
Non, c'est la brune châtain, là, avec les yeux noisettes.
Et qui fait quoi?
Qui fait toutes les pubs, en fait. Elle fait toutes les pubs.
Marie Baron?
Elle fait Mixa, elle fait... alors, elle a arrêté... Elle n'a pas commencé Téna parce qu'elle est trop jeune.
Oui.
Elle est très, très, très jeune, mais elle est brune et les yeux noisettes. Et elle fait toutes les pubs, c'est vrai. Vous pouvez regarder, vous la reconnaîtrez. Elle est dans toutes les pubs.
On peut aussi ne pas regarder.
Personnellement, je ne regarde pas.
Il y a quand même un monopole de quelques comédiens qui squattent quand même les mêmes pubs.
Eh bien, justement, est-ce que vous avez besoin de nouvelles voix? Parce qu'on est quelques-uns ici autour de la table à avoir une petite voix. On peut peut-être faire des vocalises et puis Atmen.
Oui. Alors, vous commencez, vous faites du bourdon d'abord, si vous voulez avoir une bonne voix, c'est...
Vous n'allez jamais être pris la tienne avec ça.
Hein?
Oui.
Vous connaissez le bourdon?
Les bourdons, c'est l'animal qui met des petites billes dans les
dents.
Bravo! Ce qui est drôle, c'est quand vous avez fait le bourdon, Caro, elle a reculé du micro.
Mais évidemment, c'est lui du bourdon qui s'est fait reculer.
Bon.
Mais pourquoi il y a une omerta sur les pubs? Dites-moi.
Pourquoi vous ne voulez pas dire qui vous avez mis
dans la
pub ?
Ah non, non, franchement, c'est trop confidentiel. C'est là qu'intervient mon métier d'agent double. Je ne peux absolument pas vous révéler ses sources. C'est totalement confidentiel.
Là. Eh bien, écoutez, là-dessus, c'est vous nous avez fâchés, on raccroche, on n'en peut plus. Merci.
Bon, allez, bonne journée à vous.
Hein. Merci, au revoir.
Merci, Jack. À plus tard.
Nova. De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ?
Bah, j'y vais à pied, j'habite à côté.
Alors j'ai quelques informations à vous donner. Une élection présidentielle se tiendra les 23 avril et 7 mai prochains. Vous êtes toutes et tous invités à voter. Alors en attendant, c'est la campagne électorale qui bondit et rebondit. Nous, on essaye de suivre, Thomas.
Oui, on suit tous les jours, toutes les heures, car il est donc
22h55.
Merci François Rollin. Et le mardi, c'est Anne Lafter qui vient nous éclairer sur ces questions politiques. Anne Lafter des Inrecuptibles.
Bonjour.
Bonjour à vous. Yannick Jadot, finalement, ne sera pas sur la ligne de départ du premier tour. Il s'est rallié à Benoît Hamon. Il n'y aura pas de candidat écologiste à cette élection 2017. Et donc, ça pose ou ça repose la question de l'écologie dans cette campagne.
Tout à fait. On va se demander si le retrait de Yannick Jadot est une défaite ou une victoire pour les idées écolo. Parce que c'est la première fois depuis 40 ans qu'il n'y a pas de candidat vert à la présidentielle. Donc, Yannick Jadot a décidé de se rallier à Benoît Hamon, ce qui lui évite quand même une déculottée, hein, parce qu'il était crédité de 1 à 2% d'intention de vote. Alors, Benoît Hamon, l'ancien frondeur, c'est lui converti hein, aux thèses écolo. Parce qu'il faut quand même savoir que chez Europe Écologie Les Verts, si certains ne sont pas très satisfaits de cette alliance, la plupart, 80%, en sont très satisfaits. Alors pourquoi ? Parce que quand Hamon déclare vouloir changer de modèle de développement ou placer la transition écologique de l'économie en tête de ses priorités, il fait du Europe Écologie Les Verts dans le texte. Et là, on est très loin de la doctrine... on va dire social-démocrate, social-libéral classique, d'un François Hollande. Par exemple, Benoît Hamon, il va reprendre à son compte la sortie du nucléaire dans 25 ans. Il va reprendre à son compte l'arrêt de Notre-Dame-des-Landes. Il va dire on va faire davantage de proportionnel. Mais c'est surtout sa vision politique à long terme hein, et une proposition comme le revenu universel qui fait de Benoît Hamon un candidat très écolo-compatible. En effet, parce que ça fait 20 ans hein, que les écolos ils parlent de ça. Ils parlent de la fin du travail, de comment vivre dans une société sans croissance. Hein.
Le revenu minimum de base, qui est une des données fondamentales qui caractérise la campagne et le programme de Benoît Hamon, ça vient plutôt de l'écologie.
Tout à fait. Ce sont des thèses qui viennent de l'écologie, de la gauche, et il n'y a rien de nouveau chez eux. Par contre, c'est une révolution hein, chez les socialistes. Et en plus, Benoît Hamon, il se positionne aussi radicalement sur la santé, l'alimentation et la qualité de l'air. Genre, il dit qu'on va sortir du diesel dans 25 ans, il veut interdire les pesticides, les perturbateurs endocriniens. Rien à voir avec les emprunts écolos de François Hollande. Et ce positionnement très vert, c'est aussi pour siphonner hein, les électeurs écolos tentés par Jean-Luc Mélenchon, hein, ce grand fan de quinoa qui milite depuis 2012 pour l'écosocialisme. Même Nicolas Hulot, qui était très pote avec Mélenchon, il dit avoir été excessivement surpris et en bien par Benoît Hamon. Alors le problème de tout ça, c'est par contre l'aile droite du PS n'est pas très 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 contente hein, de ce changement de stratégie énergétique proposé par Benoît Hamon. Il lui reproche même de ne s'adresser qu'à la gauche en proposant un programme inapplicable. Donc la position de Benoît Hamon, elle a l'inconvénient de pousser l'aile droite dans les bras de Macron, déjà rejoint par François de Rugy.
Ça renforce une scission à l'intérieur du PS, cette question autour de l'écologie.
Totalement. Et en plus, Macron, lui, il a une position plutôt old school, hein, à la François Hollande sur l'agriculture, l'énergie ou les transports. Pourtant, ça n'empêche pas Daniel Cohn-Bendit de trouver que c'est le meilleur candidat, notamment pour battre le FN. Alors Daniel Cohn-Bendit, qu'est-ce qu'il pense de la position de Benoît Hamon ? Pour lui, c'est l'ébauche d'un parti social écologiste, c'est-à-dire une sorte de dépassement du parti socialiste, si je puis dire. Et pour Cohn-Bendit, le plus urgent, c'est de battre le Front National.
Voilà, merci beaucoup Anne Lafter. On comprend avec ce dernier point sur Daniel Cohn-Bendit vert, hein, il faut quand même le rappeler, qu'il reste une forme de paradoxe sur cette question-là. Le choix de Daniel Cohn-Bendit, c'est donc Emmanuel Macron, il l'a dit il y a quelques jours.
Tout à fait.
Et la une des Inrocs demain, c'est quoi ?
C'est Stupeflip, pardon.
Stupeflip qui revient. Merci beaucoup Anne Lafter, à mardi prochain.
Merci.
C'est nouveau sur Nova Kids, Francescoli avec Common Line. Edouard Baird est en stage d'oxygénation à la montagne ce matin. Ça explique son absence. On peut peut-être faire un premier bilan de l'émission depuis 7 heures. Ça s'est plutôt.
Pas trop mal passé. On a tenu la boutique. Voilà.
Oui. Mais il a peut-être. Qu'est-ce qu'il a manqué? Je ne sais pas, moi.
Et puis, si vous voulez que ça soit bien, il avait qu'à être là. Hein. Voilà, tout simplement.
On me signale, il nous manque le jeu de François Rollin.
Qui est réclamé.
Ah, voilà. Eh bien, à 8h10 sur Nova, un nouveau jeu. Oui, voilà.
Le jeu de 20h.
Ah ben c'est la musique de jeu, parce que c'est festif. Hein,
voilà.
Donc là, je vous propose un nouveau jeu radiophonique, appelé certainement à un très grand avenir. C'est le Benasco coinché, qui est, comme vous l'avez deviné, une variante de la belote coinchée, mais qui se joue avec des dés à la place des cartes. Ah. Alors ça, en deux mots à chaque fois, hein, n'allez pas croire que le Benasco coinché se joue obligatoirement avec des dés et le garagiste sur la place des cartes à Limoges. Et puis, pour être complet, sachez que le mot Benasco est un mot de dialecte bantou qui signifie combien.
D'accord.
Mais place au jeu, Armel. J'ai des dés, vous voyez, je les lance. Et vous devez me dire combien font ces deux dés. Si vous me donnez la somme exacte, vous gagnez. Si vous me donnez une autre somme, vous perdez. Et si vous ne me répondez pas, on dit que vous êtes un peu coinché, d'où le nom du jeu.
Alors, je crois qu'on a quelqu'un en ligne pour
participer
avec nous.
Allô ?
Oui, allô ?
Oui, quel est votre prénom ?
Je m'appelle Lina.
Lina. Eh bien, bonjour Lina. Est-ce que vous êtes prête à jouer avec moi au Benasco coinché?
Oui, absolument.
Alors attention, premier et dernier tirage. C'est comme ça au Benasco coinché, il n'y a qu'un seul tirage. Hop là. Alors selon vous, quelle est la somme des dés?
Vu d'œil, je dirais 6.
Non, c'est perdu.
C'est vraiment dommage.
C'est dommage. Vous n'êtes pas coinché du tout.
Un deuxième tirage.
Vous êtes tellement peu coinché que je vous invite à nous rejoindre dans le studio dès que vous aurez un moment. Merci en tout cas à Lina d'avoir joué avec nous.
C'est dommage parce qu'il y avait un très 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 beau cadeau.
Oui. Donc on ne saura pas, un cadeau coinché.
Eh ouais.
Peut-être un autre jeu la semaine prochaine alors.
Mais pas avec la même candidate parce qu'elle m'a déçu.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. Je suis pressée là.
Il était de passage dans le coin, donc il est passé dire un petit bonjour dans le studio. Sabri Beljilali, bonjour.
Bonjour.
Vous avez déjà entendu quelques fois, il y a quelques mois, au téléphone. Edouard Baird, vous avez posé des questions. Vous êtes responsable de la section sport de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille et vous vous occupez, entre autres, d'organiser les jeux pénitentiaires.
Exact, ouais, c'est ça.
Rapprochez-vous un peu du micro.
C'est l'invité bonus. Je suis passé par là depuis Marseille.
Alors, racontez-nous alors comment ça va se passer ces Jeux Olympiques, on va dire, dans les prisons.
L'idée c'est d'essayer d'organiser une compétition dans toute la France.
Oui.
On a fait ça en 2016 et il fallait qu'on arrive à confronter un peu toutes les personnes détenues, chacun dans leur prison, et de les mesurer, de se comparer, par exemple, au résultat du 100 mètres.
Donc c'est quoi les disciplines? C'est du 100 mètres?
Par exemple, c'est le 100 mètres.
Ouais.
Au départ, ce qu'on voulait faire, quand j'ai eu l'idée, c'était, il y a les Jeux Olympiques, le type dans sa prison, est-ce qu'il peut y participer? Est-ce qu'on peut se rapprocher? Donc moi, mon idée, c'était de faire ce qui se passait aux Jeux Olympiques, de le faire dans la prison et de tourner dans toute la France.
Mais où est-ce qu'on s'entraîne au 100 mètres dans une prison?
Par exemple, dans la cour de promenade, sur le terrain de sport. Ou alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé carrément une piste de 100 mètres dans une dizaine de prisons en France.
D'accord.
Et c'est ce qu'on propose de faire en 2017. Alors, une piste de 100 mètres, un terrain de foot, bien sûr.
Mais les compétiteurs ne seront pas forcément côte à côte. Ou alors, on va transférer un prisonnier d'une prison à l'autre pour qu'il puisse courir le 100 mètres, non?
Non, du tout. L'idée, c'est que vraiment, le type dans sa cellule, il puisse se mesurer à Brest avec la prison de Nice.
D'accord.
Et donc, nous, on compare les résultats avec les fédérations sportives. Et
est-ce qu'il y a des prisons qui se détachent, qui ont plus de médailles, on va dire, que d'autres? Est-ce qu'il y a des...
Forcément Marseille.
Forcément Marseille, vous allez me dire. Vous êtes le local de l'État. On m'a dit que le saut à la perche était interdit.
Malheureusement.
Mais voilà, hein, ça c'est vrai, c'est sûr. Et de la pétanque, il paraît, il y en a, parce que la pétanque va devenir olympique.
Exactement. Et la pétanque chez nous, enfin surtout dans le sud, mais dans la France, c'est vraiment un sport phare. On a passé l'année dernière pratiquement 400 personnes.
Oui.
Et là, on espère faire 1000 personnes. Et ça, on reproduit l'épreuve de championnat du monde de tir. Alors, je sais que vous avez tourné un film.
Oui, c'est gentil de le reconnaître.
Je pense à vous pour la prochaine compétition.
Oui, et comment ça se passe en fait? Il y a des arbitres homologués qui viennent vérifier, le truc est affiché.
Exactement. Là où on a été pertinent, c'est que La règle, c'est la fédération qui la met en place. C'est pas les surveillants pénitentiaires, c'est pas le directeur de la prison, c'est la fédération qui vient à l'intérieur de la prison. Chez nous, on lui laisse le stade et puis il dirige la compétition.
Ça ressemble à des scénarios qu'on a vus à Hollywood, comme Plein la gueule, où le type était rentré, où il faisait du rugby américain et puis il monte une équipe avec les taulards. Et vous, est-ce que vous repérez des anciens sportifs qui sont devenus justement des taulards, enfin des prisonniers, et qui peut-être ont le meilleur heure de gloire justement dans la prison?
Ben justement, c'est drôle que vous parliez de ça, parce que notre gagnant du 100 mètres national, il a fait quasiment 12 secondes 10, presque en chaussures trouées. Sans entraînement, donc la fédération a mis les yeux dessus, parce que sans entraînement ou alors un sur longueur à 6 mètres et quelques.
Donc à la sortie, il y a des recruteurs en fait.
Le truc, c'est d'essayer de réinsérer les gens, donc de proposer quelque chose à l'extérieur, pourquoi pas, oui, c'est notre objectif, quoi. Comme la venue des bénévoles, là, de M. Castagnier, là, du Club des volontaires du sport. Donc voilà, la société civile rentre à l'intérieur de la prison
Et quelle est votre action, M. Castagnier, alors puisque
vous... Alors, très vite.
Notre action, nous, c'est on fait partie du CVS, du Club des volontaires du sport, qui est une association qui met en relation, déjà au départ, tous les organisateurs de compétitions sportives et les fédérations, lorsqu'ils font une opération sportive assez importante. Au hasard, je vais vous dire le semi-marathon de Paris, qu'on va avoir la semaine prochaine. Et ce club sert aussi à fournir des bénévoles à Sabri lorsqu'il fait des animations dans les prisons ou des animations sur les jeux pénitentiaires qui se passent dans le midi de la France.
Voilà, merci beaucoup, belle initiative. J'espère que ça va marcher.
Et Tito se met à chanter pour la fin de l'émission. Voilà. Merci Sabri.
Ben voilà.
On va juste reprendre Jack Souvent une petite seconde. Jack, est-ce que vous avez le fin mot de l'histoire? Quand on veut, on peut alors finalement ou pas?
On peut commencer. C'est-à-dire que tout est fait. Là, j'ai une information capitale. À 16h, place de la République, il y aura une bataille d'œufs, parce que c'est mardi gras, entre le collège Béranger et
Louise Michel.
Donc 16h, baston d'œufs sur la place de la République. Voilà.
Et c'est encore les gens qui vont balayer qui vont être très contents. Merci pour eux.
Baston d'œuf, je ne sais pas si on peut terminer l'émission là-dessus.
Non, on va terminer sur Edouard Baird qui revient demain. Voilà.
Bonne journée à tous.
À demain et merci à vous tous. Voilà. Merci, monsieur Rollin.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.